Bonsoir! Bonsoir tout le monde! Bonsoir les gens, comment ça va? Bonjour, bonsoir. Ah, comment ça va? Je suis un raisin sec, salut PMF. Merci pour ton resub. Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça roule! En ce lundi, il est 19h du matin, c'est l'heure de se réveiller. C'est le début de la journée. Bonjour, bonjour. Comment va le petit chat? Le petit chat, il a chaud. Elle a chaud, le petit chat. Elle bouge plus. Elle est sous le meuble de la cuisine. Elle veut plus sortir. Elle a trop chaud. Je la comprends. Merci Eldia. Merci Felras. Merci OG Winehouse. Merci beaucoup. Faut la brosser un brin. Ah, je peux pas l'approcher. Donc ça c'est pas. Je vais pas pouvoir la brosser. Ça c'est sûr. Ça fait pas mal de grains de poussière sur la caméra. Hein? Absolument pas. Je suis une truffe au maroilles. Bonsoir Souscar, merci pour ton resub, merci beaucoup. Merci Tresh. Elle peut se brosser pour se faire brosser, tiens. C'est ça, elle peut se brosser, ouais. Il fait chaud, il fait trop chaud. Il faut lutter contre le réchauffement climatique, elle aura moins chaud comme ça. C'est une très bonne idée. Si vous le faites pas pour la planète, faites-le pour les petits chats. T'as assuré chez Oxfam. Ouais, c'était cool chez Oxfam. Oxfam, l'association Oxfam qui a organisé un marathon tout le week-end pour lever des dons et pour alerter sur la situation de la famine au Sahel et dans la Corne de l'Afrique. Et donc j'ai participé hier et c'était cool. C'était cool. C'était cool, j'ai animé plusieurs plateaux. J'ai animé plusieurs plateaux. On a parlé, on a fait une revue de presse sur la situation justement dans le Sahel et dans la Corne de l'Afrique. Un plateau sur le féminisme. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un plateau sur les ONG avec Najat Vallaud-Belkacem pour l'association One qui était là. Et j'ai participé à un jeu de rôle avec Benoît Hamon. J'ai joué à un JDR avec Benoît Hamon. C'était très drôle. Benoît Hamon qui avait jamais fait de jeu de rôle de sa vie. Je comprends pas. On va jouer un rôle? Oui. Ah ouais, c'était marrant. C'était sur la chaîne Twitch d'Oxfam. Oxfam France. C'était marrant. Merci Wizipelli pour ton resub. Merci beaucoup. Merci Just Danny pour ton resub. Merci Ray Delita pour ton resub. Merci beaucoup pour votre abonne pour vos abonnements. Merci. Hein. Un JDR préexistant ou conçu pour l'occasion? Non, conçu pour l'occasion. C'était l'exceptionnel Lincus qui animait, qui avait écrit avec son co-auteur ce JDR. Merci Louloucopter. Il y a des rediffusions sur YouTube. Pas tout de suite, mais ça va arriver, je crois. Je crois que ça va arriver. Et le soir. Le soir, il y avait une vente aux enchères qui était organisée avec plein de trucs vendus aux enchères pour au profit d'Oxfam. Et il y a mon exemplaire du règlement de l'Assemblée nationale dédicacé qui a été acheté aux enchères par l'un ou l'une d'entre vous. Merci. Merci pour Oxfam. Mon exemplaire perso du règlement de l'Assemblée nationale dédicacé. Qui a été vendu pour 289 euros au profit d'Oxfam. C'est cool. C'est un très joli don. Merci beaucoup pour Oxfam. Et donc, la personne qui l'a acheté va être l'heureuse propriétaire. 289 euros, c'est le nombre de. C'est la majorité 289. C'est le nombre de députés qu'il faut pour avoir la majorité. Majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est trop marrant. Du coup, maintenant, tu peux plus demander de rappeler le règlement. Non, je l'ai plus, faut que j'en rachète un maintenant, du coup. C'était bien la Banque de France, j'ai appris plein de trucs. C'était cool la Banque de France, hein. Merci, merci. Heureux que t'aies appris plein de trucs, hein, c'était le but. C'est pour ça qu'on l'a fait avec la Banque de France. J'espère qu'on refera des émissions avec la Banque de France. C'était une bonne première émission. Merci Vandaviel pour ton resub, merci. Pour ton abonnement, pardon, merci beaucoup. Mmh. Elles sont montées bien vite, les enchères. Ouais, elles sont montées vite, les enchères. C'est quoi les 18% au-dessus? C'est où on en est du financement pour finir la saison de Baxit. Il reste encore 27 000 euros à récolter pour arriver à financer complètement la fin de la saison Baxit. Ils étaient contents à la Banque de France. Ils avaient l'air, ouais, faut qu'on prenne le temps de débriefer. Merci Obi-Wan, merci Gordon pour vos resubs, merci beaucoup. C'était uniquement sur ta chaîne, la Banque de France? Ouais, c'était uniquement sur ma chaîne. C'était les rencontres de la politique monétaire qui étaient sur ma chaîne. La fin de la saison, ça va jusqu'à quand? La fin de la saison Baxit, c'est le 29 juin. Ce sera la dernière émission de la saison. Ce sera le 29 juin. Donc pas ce jeudi, mais jeudi prochain. Merci Super Bob pour ton resub. Merci Jojo7 pour ton resub. Est-ce que t'as prévu d'autres rencontres comme celle de la Banque de France? Ah bah oui, j'en fais de temps en temps des partenariats comme ça avec des institutions. Moi, je suis toujours chaud pour vous faire découvrir des institutions. Mais pour ça, il faut qu'on ait des partenariats, quoi. Donc on en discute avec les institutions. On va s'ennuyer tout l'été, nous. Ah bah attends, faut bien qu'on se repose, hein. Est-ce qu'il y aura une troisième saison de Baxit? Eh ben, on va essayer. On va tout faire pour. On va tout faire pour. On y travaille. Mais déjà, on essaye de finir cette saison en étant à l'équilibre financièrement. Ça nous aidera à lancer une troisième saison à la rentrée en septembre. C'est le droit à la paresse. C'est le droit aux vacances. Question pour le 29, vous êtes plutôt vin rouge, rosé, blanc? Moi, je suis plutôt rosé ou blanc. Est-ce qu'au final, tu as été payé par la Banque de France? Oui, c'était un partenariat. C'était un partenariat rémunéré. Donc on continue Qu'est-ce qui se banque banque pendant l'été. Oui, on continue le Qu'est-ce qui se banque banque. D'ailleurs, vos dons récurrents sont très utiles. Ah, je vous rappelle que pour participer au financement de l'émission Baxit, si cette émission vous plaît, si elle vous a plu, si elle vous a permis de découvrir des gens, de comprendre mieux la politique, etc., n'hésitez pas à participer vous aussi à son financement. C'est grâce à vous qu'on l'a fait. Et grâce aux partenaires avec qui on fait que certains bifors sponsorisés, vous pouvez acheter sur la boutique Redbubble. Des t-shirts, des casquettes, des trucs comme ça, des coques de téléphone. Vous pouvez faire un don ponctuel sur KissKissBankBank. Vous pouvez faire un don régulier sur KissKissBankBank, un abonnement. Et les dons réguliers, c'est super bien pour nous parce que ça nous permet d'avoir de la prévisibilité sur l'avenir. Et c'est cool pour faire des calculs. Le stream Twitch peut bénéficier de subventions du type CNC. Ah oui, on a bénéficié. Cette saison de Baxit a bénéficié d'un financement du CNC qui nous a été accordé. Est-ce que vous aviez envoyé toutes les contreparties de la saison 1? Sur les contreparties de la saison 1, mon ancien coproducteur n'avait pas pu envoyer toutes les contreparties puisqu'il avait eu des difficultés économiques et financières et c'est la raison pour laquelle on n'a pas pu aller au bout de la saison 1. Toutes les contreparties qui pouvaient avoir être envoyées l'ont été et les autres ont pu bénéficier d'un remboursement pour ceux qui l'ont demandé. Et c'est pour ça qu'on a changé de coproducteur entre les deux saisons. Le CNC, c'est one shot? Non, on peut le demander tous les ans, le CNC. Est-ce que le shop vous apporte suffisamment de sous? Non, le shop, ça nous rapporte peu. Mais c'est pas grave, ça vous fait plaisir aussi de pouvoir arborer un beau t-shirt Baxit. Et donc c'est important pour nous que vous puissiez nous soutenir aussi de cette manière-là. Donc je n'ai rien à faire si je veux continuer à soutenir Baxit via KissKiss une fois la saison finie et préparer le budget de la saison 3. Effectivement, tu n'as pas absolument nécessairement besoin de faire un don supplémentaire. Si tu es déjà abonné à KissKissBankBank, tu peux le rester au cours de l'été. Et je t'en remercie par avance. Ça vient d'où le nom Baxit? C'est vous qui avez décidé, c'est le chat qui a décidé. Ça paye avec combien de retard le CNC? C'est une très bonne question. J'en sais rien. Penses-tu que Baxit pourrait s'ouvrir, selon l'actu, à des sujets annexes à la politique comme l'économie avec des chroniqueurs spécifiques? Oh, attends, t'es marrant, on a parlé de retraite pendant 3 mois. Si c'est pas de l'économie, ça, je sais pas ce que c'est, hein. Pouvoir d'achat, c'est quoi? C'est pas de l'économie? Non, Baxit, c'est une émission qui parle de l'actualité politique. Et en fonction des sujets d'actualité politique, on parle de l'actualité politique. C'est pas nous qui décidons spontanément de parler d'économie parce que ça nous plaît. C'est l'actu qui s'impose. Si tu veux bien expliquer ce que c'est parce que je suis nouveau, si je veux bien en parler. De quoi, de quoi, de quoi? De Baxit? Baxit, c'est mon émission du jeudi. C'est une émission en plateau et en public. C'est un talk show d'actualité politique qui s'adresse aux personnes éloignées de la politique pour essayer de les inciter à s'intéresser à l'actualité politique. On a des chroniqueurs, des chroniqueuses, on a des chroniques, on a du public, on parle d'actualité politique, on débriefe l'actualité, on a des invités politiques qui viennent répondre à nos questions. Voilà. C'est une très très chouette émission que je t'invite à regarder. Le tout dans la bonne ambiance. Les dons actuels, les 27 000 euros manquants, c'est pour financer la saison prochaine, c'est ça? Pas du tout. C'est pour financer, c'est pour finir de financer la saison actuelle. Ça parle de Kouakoubé aussi, très important, très très important. On est au cœur de l'actu politique. Je regarderai avec plaisir, alors merci beaucoup. Et ben, n'hésite pas à découvrir, tu peux aller sur YouTube si tu veux regarder les émissions qu'on a fait au cours de l'année. Et si c'est une émission qui te plaît, n'hésite pas à venir jeudi. À 19 h, regardez l'émission de cette semaine. N'hésite pas à venir jeudi prochain, regarder la dernière émission de la saison. Et si ça te plaît vraiment, n'hésite surtout pas à participer au financement de cette émission. Voilà. Merci, Mad Data Science. Baxit saison 3, j'espère. Comment faire partie du public? Pareil, tu peux faire point d'exclamation place dans le chat et venir dans le public en échange d'une participation au financement de l'émission. Est-ce que l'OP avec la Banque de France va dans Baxit? Non. L'OP avec la Banque de France ne va pas dans Baxit. Elle finance le reste des activités de ma chaîne. Hello Jean, quelle politique tu rêves d'interviewer? Bah, les politiques qui font l'actualité politique. Pas une question de hiérarchie, hein. J'ai adoré l'OP avec la Banque de France, je connaissais pas du tout l'utilité des banques centrales. Bah c'était le but, c'était le but. Non, mais je suis très content que ça vous ait plu, hein. Moi aussi ça m'a plu de la faire. C'était une chouette OP, c'était une chouette émission, je trouve. Et si ça vous a permis de comprendre justement la Banque centrale, la Banque de France, à quoi elle sert, machin, etc., que vous avez compris les béaba de la politique monétaire, alors tant mieux. C'est le but. Est-ce que tu vas au Bourget? Ah, je sais pas quand est-ce que je vais au Bourget, faut que je vois. Pour savoir quand tu iras faire un coucou à Jumpsuit. Non, mais je vais passer faire un coucou à Jumpsuit au Bourget carrément, mais je sais pas quand. Le salon du Bourget. Quand est-ce que je vais réussir à y passer? Probablement ce week-end. Faut que je regarde les démonstrations en vol, tout ça, c'est à quelle heure, machin. Est-ce que tu inviterais Mélenchon malgré tous ses lapins? Quand il voudra, hein. Enfin, quand il voudra, non, c'est pas lui qui décide. Mais... Oui, ça m'intéresse d'avoir Jean-Luc Mélenchon, mais pas dans l'absolu, ça m'intéresse d'avoir Jean-Luc Mélenchon dès lors qu'il y a une actualité qui est intéressante à aborder. Merci Skywalker pour ton resub, merci. Bonjour, j'ai raté quoi? Oh, pas grand-chose. Il y a beaucoup de politiques qui t'ont posé des lapins? Non, alors poser un lapin, ça veut dire promettre que tu viendras et annuler à la dernière minute. Oui, ça nous est déjà arrivé. Non, pas souvent, mais ça nous a toujours mis dans la merde, ça c'est sûr. après, il y a des politiques qui ont refusé de venir, ça. Ça, c'est le jeu, hein, de l'interview politique. Est-ce que ça se fait de refuser une décoration, genre Ordre du Mérite, Légion d'honneur, ou tout en invoquant, le tout en invoquant une adéquation avec celui qui l'a promu? Bien sûr, ça se fait, bien sûr. Il y a plein de gens qui refusent la Légion d'honneur ou l'Ordre du Mérite, parce qu'ils ne veulent pas la recevoir, pour plein de raisons. Notamment parce qu'ils n'aiment pas les personnes qui leur remettent la décoration. C'est une très bonne raison de refuser une décoration, il n'y a aucun problème. Quelle est ta méthode pour intéresser les gens qui ne s'intéressent pas à la politique? Car par analogie, Étienne Klein expliquait que le problème de la vulgarisation scientifique, parce que ça ne prêchait que les convaincus. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Tout domaine d'activité intéresse d'abord les personnes intéressées par ce domaine d'activité. Si tu veux aller chercher d'autres personnes, bah, il faut que tu sois ouvert. Il faut que tu proposes des contenus abordables, accessibles, faciles. Non, je sais pas. Bah, moi, je fais une chaîne Twitch, hein. Voilà. J'essaye. Donc ouais. Bon, et vous, ça va? Parce que là, je parle, mais et vous? Est-ce que vous allez bien en ce lundi? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Je sais pas si vous avez regardé Oxfam, si vous êtes passé un peu vite fait sur leur stream au cours du week-end. Doum doum doum, parce que est-ce que. Oh, tac tac. Oui, c'est ça, on a fait un stream vendredi, ouais. Je suis encore en blocus, c'est dur. Blocus de quoi? Super week-end au Hellfest. Ah oui, c'était le Hellfest, c'était bien le Hellfest. Ah bah j'y suis pas allé du coup. Je suis en partiel, c'est dur. Courage, courage les gens qui ont des partiels, des épreuves du bac, tout ça. Courage à vous. J'ai vu Najat Vallaud-Belkacem, j'ai trouvé très intéressante. Ouais, sur Oxfam. Ouais, c'était chouette. Non, je suis en manque de backseat. Ça revient, jeudi il y a backseat. Jeudi il y a backseat, promis. J'ai fait 4 Hellfest, maintenant place aux autres. Il y a Usul qui a fait une très belle imitation de ta personne ce week-end. Ah, pendant. Oui, j'ai vu qu'Usul il faisait des imitations. Ben, je suis passé sur son stream dimanche. J'ai vu qu'il faisait des imitations et qu'il m'imitait très bien. T'as vu OLG s'arrête? Oui, j'ai vu. Bon, moi, je le savais déjà, mais oui, j'ai vu. J'ai vu que Usul et Cotentin ne reprennent pas, ouvrez les guillemets, la saison prochaine. Et je les comprends tout à fait. Enfin, ils l'expliquent très bien. Ils ont fait le tour. Ils ont envie de passer à autre chose. C'est tout à fait normal. Aucun problème. Ils ont fait combien de saisons au LG? Ils ont fait un paquet quand même, hein. Si on assiste à l'émission sur place, à quelle heure se termine-t-elle? L'émission se termine à 22h et après il y a un buffet qui est offert, mais tu peux partir quand tu veux. Ils ont fait 6 saisons. Ouais, ils ont fait 6 saisons, d'ouvrir les guillemets. 6 saisons, c'est beaucoup, hein. 6 saisons, c'est énorme, hein, pour une émission sur Internet. Non, je comprends qu'ils aient envie de tourner la page, hein. Je comprends tout à fait. Acropolis, ça a duré combien de temps? Acropolis, ça a duré de 2016 à 2020. 2019. 3 ans. 4 ans. Tu vois? Merci Herbatal pour ton resub, merci. OLG Kezako. OLG, c'est Ouvrez les guillemets. C'est une émission sur la chaîne YouTube de Mediapart qui est animée donc depuis 6 ans par Usul, qui est un vidéaste et chroniqueur qui fait des commentaires d'actualité politique et des chroniques. C'était quoi Acropolis? C'était l'ancien nom de ma chaîne Twitch. Où il y avait plusieurs autres personnes dessus. C'est quoi Twitch? Sur le site d'Acropolis revient bientôt. Il y a encore un site Acropolis? Ah ouais. Énorme. Je continue à payer l'hébergement du site Acropolis. Marrant. Twitch, c'est un peu comme Kick pour faire simple. Ouais, c'est ça, Twitch, c'est le concurrent de Kick. C'est pareil. Ils ont copié. Lâchez vos subs pour financer Acropolis. Oh, à l'ancienne. À l'ancienne. Ah, mais moi, ça fait 8 ans que je suis sur Twitch. Hein. Ça fait 8 ans que je suis... Eh, ça fait 8 ans que je fais les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Peut-être un moment, on va estimer que ça fait beaucoup. Hein. Huit ans de questions pour combien de réponses? Ah, ça. Il y a un moment, quelqu'un va t'interner, surtout, c'est inquiétant. C'est quand que tu te fais employer par l'Assemblée nationale? Oula, jamais. Ah ouais. L'Assemblée nationale, ils veulent bien que je bosse pour eux, mais à condition que ce soit gratos. Ça fait combien de temps que c'est diffusé sur Internet, les QAG? Je sais pas. Comment va l'opoticha? L'opoticha, elle a chaud. L'opoticha, elle a chaud. Elle bouge plus de sous le meuble de la cuisine. Elle s'aventure plus à l'extérieur. Elle a trop chaud. Je pense qu'elle a trop chaud. Oh, pauvre petite. En plus, ils peuvent pas te payer en visibilité. Ah bah non. Les invités de Bexit sont contactés combien de temps à l'avance généralement? Ça dépend. Ça dépend. Ça va de 3 semaines à 2 jours. Voire le jour J. C'est déjà arrivé. Les invités du jour J le prennent pas mal? Pourquoi ils le prendraient mal? C'est pas une insulte qu'on leur fait de leur proposer de venir dans l'émission. Et si c'est le jour J, bah ils se doutent bien que c'est parce qu'on a eu une annulation de dernière minute. Regrettes-tu tes passages à la télé? Ah non, non, moi je regrette pas mes passages à la télé. Pourquoi je regretterais ou j'aurais des regrets? Est-ce que tu veux réitérer tes passages à la télé? Non, mais moi, c'est pas une fin en soi. Passer à la télé, ça a jamais été un rêve de gosse. J'en ai pas grand-chose à foutre. Surtout, j'ai du boulot. J'ai un vrai métier. Et moi, je veux bien passer à la télé. C'est avec plaisir. Moi, quand on m'invite dans une émission, moi, j'accepte de venir. Hein. C'est quand on fait la politesse de m'inviter, parce qu'on a des questions à me poser et que j'ai envie d'y répondre, bah j'y vais. Par contre, faut pas que ça prenne. Il faut que ce soit compatible avec mon emploi du temps. Voilà. N'importe quelle télé, tu dirais oui. Ah bah non. Ah bah non. Oh, vous me verrez pas sur CNews, non, ça c'est à peu près certain. L'émission de Backseat, ça pourrait exister à la télé sans contrainte éditoriale? Bah ça c'est une bonne question, c'est pas tant à moi qu'il faut poser la question qu'à la télé. C'est-à-dire, moi Backseat, c'est une émission Twitch, hein, que j'ai pensée pour vous sur Twitch. C'est une émission qui est au cœur du fonctionnement de Twitch, de sa grammaire, de son usage, de tout ce que vous voulez. Je sais pas si une chaîne de télé peut diffuser Twitch, hein. Peut diffuser une émission comme Backseat. Surtout la télé, il s'adresse à un public plus âgé, hein. Donc. Est-ce que tu penses faire évoluer la mission, la saison pro? Ouais, je pense. Faut qu'on en parle avec mes coproducteurs, on va en parler avec Quentin et François, avec qui on fait cette émission. On va discuter de nos envies, des évolutions qu'on a envie de faire, des trucs qu'on veut garder, des trucs qu'on veut améliorer, etc. Toujours pareil, hein. C'est moi ou son micro est faible? Ah. Mon micro est faible? C'est vrai qu'il n'est pas très fort. Comment se fait-ce? Attends, je vais regarder. Mic setup. Non, pourtant, j'ai pas changé le nombre de décibels. Ah. Je peux monter encore. Je peux mettre 55 décibels. Non, c'est comme d'hab. Hein. Oui, plutôt faible. Ah bon? Écoute, moi, ça monte dans le jaune hein, en termes de. Non, mais je vais pas vous le mettre aussi fort que ça quand même, par contre. Voilà, je peux le mettre là. Non, c'était bien. Mais oui, non, c'est bien. Je trouve plus faible que d'habitude. Ah bon? Peut-être qu'il a chaud lui aussi. Pardon. Ça va, t'as pas trop chaud le micro? Non, je sais pas. Ou alors, faut que je parle plus fort. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors bon, quand même, revue d'actu, on est lundi, on se remet dans le bain de l'actualité après le week-end, on a passé le week-end à penser à autre chose, vous étiez au Hellfest, vous étiez sur Internet, vous étiez sur Valorant, vous étiez où vous voulez. Il s'est passé des trucs en politique, on va essayer de lire quelques articles pour se remettre dans le bain de l'actu. L'événement politique du week-end, c'était les États généraux des Républicains. Le parti politique Les Républicains s'est réuni au Cirque d'Hiver à Paris pour mener le travail de reconstruction engagé par le président du parti, Éric Ciotti, dans un contexte très important dont on va reparler, le contexte d'alliance possible, potentielle, en cours de réflexion, point d'interrogation, avec le gouvernement. Donc ça, c'était l'événement du week-end, il y a quelques articles, il y a la question du remaniement, évidemment, qui est sur toutes les lèvres à l'approche du 14 juillet, en cette fin d'année. Est-ce que Elisabeth Borne va devoir laisser sa place? Est-ce qu'Emmanuel Macron veut une nouvelle méthode? Ça, oui, il a déjà dit. Est-ce qu'il veut faire alliance avec LR? Oui, ça, on le sait déjà. Est-ce qu'il va y arriver? Ça, non, on n'en sait rien. On ne sait pas. C'est quoi la différence entre une alliance et une coalition? C'est la même chose. Coalition, c'est tu coalises plusieurs groupes. Une alliance, bah, plusieurs groupes font alliance, donc ça veut dire la même chose. Voilà. Coalition, c'est à. Oui, non, non, en fait, non. Coalition, c'est quand il y a plusieurs partis ou plusieurs groupes. La NUPES est une coalition. Enfin non, c'est aussi une alliance en fait. Elisabeth Borne. Non, pardon, Elisabeth Borne. Pardon, Borne, Borne, Borne. Ça changerait quoi par rapport à maintenant? De quoi? Une alliance entre LR et les LREM? Bah, LR ferait partie de la majorité, LR aurait des députés et aurait des ministres au gouvernement, LR et Renaissance voteraient ensemble les mêmes textes, ça permettrait au gouvernement d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Ça changerait quand même beaucoup. Il n'y aurait plus besoin de 49-3. Sauf que pour y arriver, les Républicains font monter les enchères et ils font comprendre à Macron que si tu veux notre soutien, tu vas devoir appliquer nos opinions, nos propositions. En quoi c'est gênant pour le gouvernement d'utiliser le 49-3? Bah, c'est quand même vachement impopulaire le 49-3. On va pas se mentir. Le gouvernement préférerait avoir des majorités qui votent ces textes plutôt que de passer par le 49-3. Hein. Ça, c'est un secret de Polichinelle, hein, tout le monde le sait. C'est même pas un secret d'ailleurs, c'est officiellement dit par Emmanuel Macron, par Elisabeth Borne, qui l'a toujours dit. Pardon. Majorité, pas sûr si la ligne gauche de la REM digère pas l'alliance avec LR. Exactement, mais ça c'est toute la question. Mais en même temps, l'aile gauche de la majorité, ça représente combien de personnes, combien de députés? Ça, c'est dur à dire. Hein. C'est dur à dire. Je comprends pas trop le concept de coalition que sur certains textes. S'ils sont d'accord sur ces textes, ils peuvent voter pour indépendamment sans faire une coalition. Bah oui, mais le problème c'est que tu peux pas n'avancer que texte par texte, t'as aussi le besoin de valider des budgets, t'as une ligne gouvernementale à valider. Du coup, alors attends, tac 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 tac. J'ai un article du Figaro, hop là, qui fait l'état des lieux sur cette convention du coup des Républicains. Attendez, je vais baisser ma cam. Boum, boum. Un article du Figaro donc sur cet événement qui a eu lieu au Cirque d'hiver ce week-end. Où en sont les Républicains? Où en est le travail de recomposition du parti initié par Éric Ciotti? Éric Ciotti qui a été affaibli quand même par le refus d'une bonne partie des députés de son groupe à l'Assemblée nationale. Le refus de voter la réforme des retraites conformément au deal qui avait pourtant été passé entre Éric Ciotti, Olivier Marleix et Elisabeth Borne. Où est-ce qu'ils en sont, les Républicains? Comment comptent-ils revenir au second tour de l'élection présidentielle après y avoir échoué 2 années de suite quand même? État généraux de la droite, LR revendique son indépendance, gage de responsabilité. Alors, réunis au Cirque d'hiver à Paris, les Républicains cherchent à creuser un sillon entre Emmanuel Macron et les extrêmes. Devant le cirque d'hiver à Paris, au milieu de quelques 1 700 militants et sympathisants venus assister aux états généraux de la droite, un homme lit, assis sur un banc, le dernier roman de François-Henri des Érables, L'usure du monde. Un passant esquisse un sourire, l'usure. C'est bien ça qu'il faut éviter. Et c'est précisément ce à quoi les Républicains, réunis samedi 17 juin dans la salle de spectacle du centre de la capitale, veulent s'employer. Le cirque d'hiver à Paris, c'est une très grande salle. C'est comme un cirque, mais qui est en dur, c'est pour ça qu'on l'appelle le cirque d'hiver. On nous croit morts, mais on nous appelle toujours, lance Rachida Dati sur scène. Elle a pas tort, Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris, ancienne garde des Sceaux. Les applaudissements retentissent. La salle vient d'être chauffée à blanc après la diffusion d'un clip où les images du général de Gaulle, de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy ont défilé sur fond de musique épique. Une mise en scène soignée. Moderne, salue-t-on même dans les rangs de LR, tandis qu'un ex-membre de l'équipe de communication d'Éric Zemmour photographie l'événement. Sans commentaire, je ne suis pas fan du recyclage, souffle un conseiller de droite. Ok. C'est intéressant quand même, parce que les Républicains, ils continuent à mettre en avant leur héritage gaulliste. Mais de plus en plus proche du Front National et des anti-gaullistes. Chiraquien, mais de plus en plus éloigné du cordon sanitaire. Et sarkoziste, alors que Sarkozy a quitté les Républicains pour rejoindre Renaissance. Enfin, Macron. Ha! Quelle ironie! Le tout a un faux air de meeting, mais sans champion. Ce qui ne manque pas d'en agacer certains. La droite se réunit pour se reconstruire. En attendant, où est notre candidat naturel? Ricane un sénateur. Face au micro, caméra et bloc-notes tendus, les LR feignent pourtant de ne pas voir le problème. Laurent Wauquiez se prépare, élu de Nadine Morano. Il se prépare sur le terrain, c'est sa méthode. Le premier secrétaire général délégué des Républicains, Othman Nasrou, renchérit. La présidentielle, c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec le peuple. En attendant, à nous d'être audibles. Le parti doit être au service du candidat. Alors, et puisque la nature a horreur du vide, d'autres prennent la lumière. Arrivé au cirque d'hiver, assailli par une forêt de perches, François-Xavier Bellamy sourit lorsqu'il entend son nom retentir, avant de rejoindre le premier rang où siège notamment le patron du parti, Éric Ciotti, son prédécesseur, Christian Jacob, ainsi que Xavier Bertrand, Aurélien Pradier ou encore Michel Barnier. Intéressant, cet alliage du premier rang des Républicains, parce qu'on sait qu'ils sont tous assez différents les uns des autres. François-Xavier Bellamy, c'était la tête de liste des Républicains pour les élections européennes de 2019, qui a fait un très faible score et qui représentait une droite assez dure. D'ailleurs, François-Xavier Bellamy avait été intronisé par l'ancien président du Parti Les Républicains, qui était à l'époque Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui a quitté la présidence des Républicains suite au mauvais score de François-Xavier Bellamy pour se retrancher sur ses terres et sa présidence du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Wauquiez qui a été proposé comme candidat à la présidentielle pour 2027 par Éric Ciotti, et c'est grâce à ça qu'Éric Ciotti a été élu à la tête du parti. Donc voilà, François-Xavier Bellamy au premier rang, à côté d'Éric Ciotti, donc actuel président du parti, courtisé par le gouvernement, et que l'on sait proche d'une ligne très droitière. Christian Jacob, son prédécesseur, qui lui aussi a quitté la tête des Républicains. D'ailleurs, je m'étais trompé, j'avais dit que Christian Jacob avait rejoint Renaissance, mais pas du tout. Christian Jacob, c'était l'ancien patron du parti. Xavier Bertrand, que l'on pressent entrer à Matignon, donc à l'occasion d'une hypothétique coalition. Xavier Bertrand qui avait échoué à remporter la primaire du parti organisée par Christian Jacob. Xavier Bertrand qui s'était lui aussi retranché dans sa présidence du conseil régional des Hauts-de-France. Xavier Bertrand, plus opposé à l'extrême droite qu'Éric Ciotti ou Laurent Wauquiez, mais Xavier Bertrand qui était quand même là, et Aurélien Pradier, haha, Aurélien Pradier, le député Trublion des Républicains, élu dans le Lot, autonome indépendant, Aurélien Pradier, qui s'est opposé au report de l'âge légal de départ à la retraite. Aurélien Pradier qui a bien fait chier Éric Ciotti, au point qu'Éric Ciotti a retiré à Aurélien Pradier sa vice-présidence du parti. Mais il était quand même là. Michel Barnier, ancien commissaire européen et ancien négociateur en chef du Brexit. Michel Barnier qui lui aussi a échoué à se faire investir candidat à la présidentielle pour 2022. Michel Barnier, pas rancunier, qui était quand même là au cirque d'hiver. Donc mine de rien, ils sont tous là. Et c'est peut-être ça déjà la première des réussites d'Éric Ciotti pour ce raout organisé au cirque d'hiver, réussir à réunir toute la famille. Il y a quand même des absents, on va en parler. Emmanuel Macron a nourri les extrêmes. Dès l'introduction des états généraux, le président LR du Sénat, Gérard Larcher, est le premier à évoquer l'espace politique dans lequel il conçoit l'avenir des Républicains. Et ça, c'est la grande question. Il est où l'espace politique des Républicains? Parce qu'entre un Emmanuel Macron qui mène une politique et de droite et de gauche, mais quand même vachement plus de droite que de gauche, qui lorne quand même vachement sur l'espace politique des Républicains, l'Europe, l'autorité, le soutien aux entreprises, et l'extrême droite de plus en plus dédiabolisée de Marine Le Pen qui elle aussi lorne sur les Républicains, qu'est-ce qui reste aux Républicains? Elle est là la vraie question. Alors qu'est-ce qu'il en dit, Gérard Larcher? Je reste convaincu que la bonne stratégie doit être l'indépendance et la responsabilité. Ça, c'est pas un espace politique, c'est une posture, mais c'est pas un espace politique. L'indépendance, c'est la garantie de notre légitimité. La responsabilité est notre boussole, car seul l'intérêt de la France guide nos choix. Ok, super. Donc en gros, Gérard Larcher ne répond pas à la question qu'il pose lui-même. L'espace politique, quid. Je suis désolé, l'indépendance et la responsabilité, ce sont des méthodes, ce sont des postures, ce sont des rôles que tu te donnes dans un champ politique, mais c'est pas un positionnement. Positionnement, c'est l'autorité, positionnement, c'est la rigueur budgétaire, le positionnement, c'est le soutien aux entreprises, le positionnement, c'est, je sais pas moi, le libéralisme, ou à l'inverse, le protectionnisme. C'est ça, un espace politique. Il a quel âge, GG, pour rappel? J'en sais rien. Il est président du Sénat, Gérard Larcher, c'est un des responsables politiques les plus élevés des Républicains. Et il est très respecté par les Républicains, Gérard Larcher. Il y a même une époque où on disait qu'il pouvait présider temporairement le parti Les Républicains. Il fait partie des personnes très respectées par tout le monde chez les Républicains. Il est assez central dans la famille des Républicains. Tac, 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 tac. Devant sa famille politique et ses militants, le troisième personnage de l'État, donc Gérard Larcher, dont le nom circule régulièrement pour Matignon. Encore? Foutez-lui la paix. Gérard Larcher l'affirme. Ce en même temps macroniste de gauche et de droite a été mortifère pour notre démocratie. La vie politique a besoin de clarté, les Français de repères, avant de cibler directement la responsabilité du président de la République dans l'installation du paysage politique actuel. En tentant de désagréger artificiellement les fondements de notre système politique, sous-entendu la famille de la droite et la famille de la gauche, Emmanuel Macron a nourri les extrêmes, à droite comme à gauche. Il a appauvri le débat jusqu'à la caricature, dénonce-t-il. Donc Gérard Larcher, faute de réussir à dénoncer quel est l'espace politique et l'identité politique des Républicains, s'en prend à Emmanuel Macron en dénonçant son en même temps, et de droite et de gauche. Il reproche à Emmanuel Macron d'avoir nourri les extrêmes, ce à quoi on pourrait lui répondre que Emmanuel Macron s'est d'abord nourri lui-même. Parce que Emmanuel Macron, il a nourri les extrêmes, il a nourri les extrêmes, t'es marrant. Il a quand même été élu 2 fois président de la République, Emmanuel Macron. Donc je veux dire, il a créé son propre espace politique, il a réussi à l'entretenir suffisamment pour être qualifié 2 fois au second tour et pour 2 fois battre Marine Le Pen. Donc Emmanuel Macron a nourri les extrêmes, ouais. Et les Républicains, de leur côté, ils n'ont pas nourri les extrêmes aussi un peu. Plus l'extrême droite que l'extrême gauche, on va pas se mentir. En reprenant le grand remplacement. En faisant un virage à droite sur la sécurité et le régalien, tu vois, bon, ok, mais bon, en tout cas, c'est plus facile de taper sur Macron. Ok. Manière de hausser le ton en veillant à ne jamais devenir trop frontal pour autant, ça c'est du grand Gérard Larcher. Vous pouvez revoir l'interview que j'avais faite de Gérard Larcher il y a 2 ans et demi maintenant, tout en rondeur. Et il est très très fort Gérard Larcher pour... arrondir les angles tout en mettant des punchlines. Gérard Larcher est toujours offensif au début, et puis ça finit par se calmer, sourit un élu. Un premier ministre de droite, alors qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord avec l'exécutif sur le sujet de l'immigration, réplique Othmane Nasrou. Avec quelle majorité voudriez-vous que l'on travaille? Une majorité qui comprend un Sacha Houlier? Je ne crois pas à la main tendue, ça n'arrivera pas. Sacha Houlier, qui est président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, et qui est trop à gauche, il vient du PS, Sacha Houlier, et il est trop à gauche pour Othmane Nasrou. Ça, on va le voir, hein, c'est la critique principale d'une partie des républicains qui pensent que ce n'est pas réaliste de faire une alliance avec les macronistes, c'est parce que les macronistes sont trop à gauche, qu'il y a trop de gens de gauche au sein de la majorité et qu'on ne peut pas faire alliance avec ces gens-là, justement. En fait, ce que vont dire en creux beaucoup de gens, c'est on ne peut pas être d'accord avec Gérard Larcher qui critique le en même temps-tisme et en même temps s'allier à ce en même temps-tisme. Voilà. Dans ce contexte, Gérard Larcher assure deviner un chemin pour la droite. Oui, insiste-t-il, indépendants, nous restons une force, libre de nos mouvements et de nos critiques, de nos accords comme de nos désaccords. Nous restons une alternative crédible à cette majorité du coup par coup, sans méthode, sans cap et sans vision. Cette majorité relative n'est pas la nôtre, nos différences sont très profondes. Intéressant. Intéressant. Gérard Larcher, donc, a l'air de préférer que les républicains restent dans cet entre-deux chelou, un coup on soutient, un coup on ne soutient pas. Si on accepte de faire alliance, on se fait bouffer. Si on reste trop dans l'opposition, on n'est pas crédible, on n'est pas responsable. Donc il faut qu'on continue à rester libre, indépendant, autonome et à dire oui ou non par à coup. Est-ce que pour autant Gérard Larcher est satisfait de ce qui s'est passé au moment de la réforme des retraites, où Éric Ciotti a dealé un accord qui n'a pas été respecté par les députés des Républicains, j'en suis pas persuadé. À mon avis, c'est une manière de ne pas regarder les turpitudes et les difficultés des Républicains que de dire ça. Mais why not? C'est autant un aveu d'échec qu'un appel à continuer, quoi. Merci Dindon d'Organe, merci Maud Guillot, et merci Aurélien143 pour vos resubs. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci, merci, merci. Merci Pablo Crub. Merci Lokanimovic. Lokanimovic, ouais, dans ce sens-là, pardon, décidément. Ils veulent des postes et des salaires, belle indépendance. Ben non, justement, il est en train de t'expliquer qu'il veut ni l'un ni l'autre. Point de vue idéologique, une alliance LR-RN fait plus de sens que LR-LREM. Ben ça c'est toi qui le dis. Après je sais pas, t'es adhérent LR depuis combien de temps toi? Peut-être hein. Je sais qu'il y a un débat au sein des LR justement sur ce sujet-là. Ils font pas juste monter les enchères. Bah oui, mais la question c'est est-ce qu'ils font monter les enchères une fois pour toutes ou est-ce qu'ils continuent à faire monter les enchères texte par texte? Merci Edradour, merci beaucoup pour ton resub. Quand Eric Ciotti prend la parole à son tour, accueilli par des applaudissements, lui aussi défend la même ambition d'indépendance. Au milieu de vous, je suis un militant parmi les militants. Bon, ça c'est un truc que disent tous les présidents de parti, c'est normal. Mais un militant qui, comme vous, ne se résigne pas à voir notre famille politique jouer les seconds rôles ou les supplétifs. Clame le président des Républicains. Indépendant et libre, toujours. La figuration, très peu pour nous. La France a besoin d'une droite forte, courageuse, conquérante. Ok. Militant qui ne se résigne pas à voir la famille politique jouer les seconds rôles ou les supplétifs. Très bien, mais du coup, ça répond pas à la question. Alliance ou pas alliance? Donc, en fait, c'est un peu le problème. C'est que Éric Ciotti dit libre et indépendant, comme l'a dit Gérard, je suis d'accord avec Gérard. Et en même temps, libre et indépendant, mais supplétif, ce qu'on est aujourd'hui, ça ne me satisfait pas non plus. Donc, il y a un côté. Oui au statu quo, mais non au statu quo. En attendant d'y parvenir, LR assure vouloir faire son introspection sans tabou. Je n'ai jamais pensé qu'il fallait penser en termes de clientèle électorale, insiste Bellamy, qui défend une droite des solutions capable d'écouter ceux qui nous ont quittés. Okay. Une militante déçue, ancienne élue de Dordogne, et qui n'a plus sa carte depuis 10 ans, prend ainsi la parole. Parmi les critiques, elle évoque l'individualisme de certaines personnes qui, lors des débats parlementaires sur les retraites, ont participé à l'image d'incohérence des LR qui, en la candidature de Valérie Pécresse, soutenaient le départ à 65 ans. Comment voulez-vous que les militants de base s'y retrouvent, grince-t-elle? Là, clairement, elle met un tacle à Aurélien Pradier qui était au premier rang. Au premier rang, Aurélien Pradier a le visage fermé. Tandis que quelques sièges plus loin, Bruno Retailleau applaudit. Tu m'étonnes, Bruno Retailleau qui a pas arrêté de mettre des taquets dans la tête d'Aurélien Pradier sur ce sujet-là. Au demeurant, cette militante, elle a pas tort. C'est compliqué pour les militants LR de s'y retrouver quand on entend d'un côté une Valérie Pécresse qui se fait applaudir en disant retraite à 65 ans et de l'autre côté Aurélien Pradier qui dit non à la retraite à 64 ans, c'est trop. Merci Octarine pour ton resub, merci Philippe Co pour ton resub aussi, merci. Au premier rang, Aurélien Pradier, donc. L'intervention ne convainc pas tout le monde. C'est grossier, lâche un élu, renvoyant aux anciennes fonctions de Claudine. Et pour cause, lors des dernières élections législatives, cette dernière était la suppléante de l'actuel directeur des fédérations du siège et à l'époque candidat à LR en Dordogne. Un observateur de la droite reconnaît, c'est pas Madame Michu. Oui, donc c'est une fausse militante, quoi. C'est une responsable du parti. Au terme de cette chaude journée, durant laquelle les Républicains auront finalement accepté de se soumettre au réalisme de leurs invités en l'absence de Laurent Wauquiez, toutes les questions ne sont pas encore levées. Peut-être le seront-elles le 3 juillet prochain dans les terres de Laurent Wauquiez, candidat naturel d'Éric Ciotti. Il s'agira alors du premier rendez-vous incarné par la droite. Donc voilà pour ce compte rendu de cet événement qui a eu lieu au Cirque d'hiver samedi dernier où la droite, en tout cas les Républicains, ont essayé de s'interroger sur leur identité. Pour l'instant, moi ce que j'en retiens de loin, c'est Gérard Larcher qui dit on est très bien comme on est, libre, indépendant et on dépend de personne. Et Éric Ciotti qui répond ouais, on n'est pas du tout bien comme on est parce qu'on est des supplétifs et on joue qu'un second rôle. Eh bien, vous n'êtes pas avancés, les enfants. Hein. Jusqu'à présent, en tout cas. Cet article, après, il ne parle pas beaucoup de fond. De fond des idées. Mais j'ai d'autres articles qui en parlent, donc vous inquiétez pas. Si tu veux jouer un premier rôle, il faut gagner les élections. Oui, absolument. C'est de la posture, il y a des macronistes trop à gauche, non. Il n'y a que la ligne de Macron à Renaissance. Je comprends pas. Ils sont dans le parti pour défendre la seule idée commune, rester dans le parti. Ouais. Il manquait Pécresse à ce meeting quand même. Oui, il manquerait Valérie Pécresse, oui, ça je suis d'accord. Merci Stelio Conto. En tant que républicain, personnellement, je refuserai toute alliance tant que le Premier ministre est une personne de gauche. Oui. Non mais c'est justement ça le fond de la critique, et ça on l'avait déjà entendu, Othmane Nasrou qui le dit, mais c'est pas le seul à le dire, que si les Républicains refusent les alliances, c'est pas par principe, c'est qu'ils considèrent que le en même temps d'Emmanuel Macron est déjà trop à gauche pour eux. C'est qu'en gros, si tu me diras, c'est le principe de toute alliance politique, oui il y a une alliance à condition qu'on imprime mes idées. Okay. Elle est où la ligne de compromis? Sur quoi tu es prêt à compromettre? Ils sont pas contents que Sacha Houlier soit président de la commission des finances, de la commission des lois, pardon. Ils sont pas contents que Yael Braun-Pivet inaugure une plaque à la mémoire de Michel Rocard. Ils sont pas contents de la PMA, ils sont pas contents de la proposition de loi sur la fin de vie. Ils sont pas contents de l'interventionnisme économique de l'État. Ils veulent plus de libéralisme, ils veulent probablement une part de capitalisation dans le système de retraite, ils veulent pas juste de la répartition. Ils veulent plus d'autorité sur les questions d'immigration, ils veulent un durcissement sur le régalien d'une manière générale, le retour de la tolérance zéro de Nicolas Sarkozy en matière de sécurité et de justice. Voilà quoi. Un retour aux années Sarko, quoi. Macron trop à gauche, vu de la gauche, c'est ubuesque. Oui, et Macron trop à droite, vu de la droite, c'est ubuesque. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais c'est bien vu. Ça fait bizarre, il n'y a plus de Chiraciens. Bah en fait, non, les Chiraciens... Enfin, Chiraciens, ils sont barrés. De toute façon, les Chiraciens, ils ont déjà été dégagés par Sarko dès 2007. Hein. Techniquement, la droite décomplexée de Sarkozy en 2006-2007, tolérance zéro, plus travailler plus pour gagner plus... C'était déjà la fin du chiracisme. Quand la dernière des chiraciennes, qui est Valérie Pécresse, valide la thèse du grand remplacement pendant sa campagne présidentielle de 2022, là aussi, t'as quand même un paquet de gens qui disent « Ok, bon, bah, le chiracisme est décidément mort. » Ou alors, ce qui reste de chiracisme, en fait, c'est déjà fondu dans Renaissance. Oui, il reste Pradier, tu me diras. Xavier Bertrand, il se revendique chiracien. Non, mais oui. Alors, évidemment, ils sont un paquet à se revendiquer du chiracisme. Xavier Bertrand, ça l'arrange bien, parce que le cordon sanitaire dans la région Hauts-de-France, ça a du sens pour lui, et c'est grâce à ça que son élection a pu se faire en 2015. Michel Barnier, représentant du chiracisme. Ouais, bon, quand lui aussi, il t'explique dans sa campagne de la primaire en 2021 qu'il faut désobéir aux traités européens. Tu dis, mais qu'est-ce qui te prend, Michel? T'as pété un boulot. François Baroin, il est hors course, il l'a déjà dit. Michèle Omari, elle a disparu. Chiraciens, je sais pas où ils sont. Hein. Merci DR Camera. Merci Hardgrink pour vos resubs, merci beaucoup. Excuse mon ignorance, mais tu pourrais redonner les principales idées du chiracisme. En gros, le chiracisme, t'as plusieurs époques dans le chiracisme. T'as Chirac Premier ministre dans les années 80 avec François Mitterrand, c'était les années fric, c'était le libéralisme. Hein. C'était clairement les années libérales, les lois de privatisation, etc. Assouplissement du marché du travail. Et puis t'as le Chirac de 95 à 2007, qui était le Chirac au pouvoir, président de la République, qui luttait contre la fracture sociale. Donc c'était un retour un peu au gaullisme social, la démocratie chrétienne, quoi, le centre droit français historique. Donc la lutte contre la fracture sociale, la question de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, avec la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans le génocide des Juifs, avec tout le travail qui a été fait sur l'antiracisme aussi fin années 90, début années 2000. Donc contre la fracture sociale, et c'est aussi le cordon sanitaire, le refus des extrémismes, pour reprendre les mots de Chirac en 2006, le rejet de l'extrémisme de Jean-Marie Le Pen, le cordon sanitaire. Voilà quoi. Et puis une attention particulière, Chirac, c'était aussi la loi sur le handicap, sur l'accessibilité, les lois mémorielles. C'était plus Simone Veil que Sarkozy, quoi. C'était les premières actions sur l'écologie aussi. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Les lois sur le cancer. Le refus de la guerre en Irak, ouais. Le refus de la participation de la France à la guerre en Irak. La loi sur le tabac. Mmh. Donc voilà, donc c'est ça le chiouï, le chiracisme. Toujours pareil, hein. Ça dépend avec quelles lunettes tu le regardes, ça dépend depuis quelle époque tu le regardes, ça dépend d'où tu le regardes, ça dépend qui tu fais parler. La loi Claeys-Leonetti sur la fin de vie. L'électorat de cette droite a disparu ou simplement s'est déplacé sur l'échiquier des partis. L'électorat historique de la droite républicaine est divisé en deux aujourd'hui. Il y en a une partie qui est chez Marine Le Pen parce qu'ils sont séduits par par cette dédiabolisation. Et il y en a une autre partie qui est chez Emmanuel Macron parce qu'ils sont séduits, parce qu'ils y retrouvent des choses qu'ils apprécient, l'Europe, le libéralisme, l'autorité. Ça se voit de manière assez spectaculaire sur les cartes électorales des présidentielles, hein. Emmanuel Macron fait carton plein dans des bureaux de vote de coins qui votaient Sarkozy très largement en 2007 et 2012, quoi. Donc, voilà. Alors, attends, un autre article. Un autre article intéressant, cette fois-ci de Libé, qui est plus critique pour le coup que le Figaro. Sur les états généraux au parfum de formol. Ça sent le formol. Un peu un truc de vieux pour Libération. On va regarder ce qu'en dit Libération de cet événement. Regardez comme ils sont beaux. Gérard Larcher, Éric Ciotti, Bruno Retailleau. Merde, j'ai pas ça. C'est qui déjà? Ah bah c'est Bellamy! C'est Bellamy qui se recoiffe là! Pardon, j'ai pas reconnu avec. Pardon. C'est Bellamy. Non, c'est pas Elon Musk, c'est Bellamy. C'est François-Xavier Bellamy. Le patron du parti, Éric Ciotti, a animé le 17 juin une grande messe militante censée relancer la production d'idées à droite, une introspection en toc et sans idées neuves, qui a encore une fois témoigné de la radicalisation du parti. On va en parler de cette radicalisation. Il rêve encore en grand, même si chaque échéance électorale les rapetisse d'une année sur l'autre. Le cirque d'hiver où les Républicains et LR ont lancé ce samedi 17 juin, leurs états généraux, une vaste entreprise de refondation doctrinale, avait donc des airs de salle de meeting, avec des militants excités, drapeaux tricolores et discours enflammés. L'événement se voulait un beau moment dans ce chemin de reconstruction que LR va porter jusqu'en 2027, selon le président du parti, Éric Ciotti. Aidé par une scénographie moins ringarde qu'à l'accoutumée, c'est à noter, le député des Alpes-Maritimes a donc pu remettre en scène, devant une salle comble de militants, le travail d'introspection que mène sa boutique. Pourquoi diable les électeurs ont-ils déserté l'ancienne UMP, ex-machine de guerre électorale qui mena Nicolas Sarkozy à l'Élysée? Les Républicains ont mis le paquet pour tenter de répondre à cette question. Sondage commenté en direct, électeurs déçus de la droite invités à participer, table ronde, etc. Si on n'est pas prêt à se faire bousculer, on est mort, prévient Othmane Nasrou, premier secrétaire général délégué du parti, lequel ne sera pourtant imposé durant cette journée aucune contradiction majeure. Ok. Déboulant dans la salle sur la musique des Chicago Bulls, Éric Ciotti a ainsi livré un discours maintes fois entendu de l'avis même des cadres et parlementaires présents, notamment lors de la campagne pour la présidence du parti. Il nous disait morts, divisés, dépassés, pourtant nous sommes là, vivants et rassemblés. Oui, bon, putain, la palissade, quoi. Oui. Ça, c'est normal, tous les partis font ça. A lancé devant la foule le chef de la droite, annonçant au passage le lancement d'un think tank baptisé La France Demain. Alors que l'hypothèse d'une alliance avec la droite fait turbiner la majorité, Ciotti n'a pas épargné Emmanuel Macron. Les Français ne veulent plus d'une politique un peu de gauche, un peu de droite, pour au final beaucoup d'immobilisme. Peu avant lui, le président du Sénat, Gérard Larcher, avait certifié que cette majorité relative n'est pas la nôtre. Ressassant ses classiques, insécurité, immigration, impôts, Éric Ciotti a attaqué la gauche convertie au mélenchonisme intégral. Et cogner sur l'extrême gauche, l'ennemi de la France et de la République. Nous ne nous laisserons pas faire. Et avec nous, il n'y aura pas de wokistan en France, a trompété le Niçois dont le discours était diffusé en direct sur la chaîne CNews. Seule trace d'une nouveauté programmatique, l'objectif de l'augmentation de notre espérance de vie. Ah, ça c'est nouveau effectivement. Bon, jusque-là, c'est rien que du classique. On est devant des militants de LR. Le président du parti, il ressasse les classiques, insécurité, immigration, les impôts, oulala, le wokistan, l'extrême gauche qui menace, l'anticommunisme. Enfin bref, jusque-là, franchement, il n'y a rien de nouveau. Très classique. L'intervention de deux sympathisants LR déçus n'aura pas non plus franchement bousculé la ligne Ciotti. La première a dénoncé depuis les gradins l'incohérence, le manque d'unité et l'individualisme de certains au moment de la réforme des retraites. Une flèche décochée à l'encontre d'Aurélien Pradié au premier rang. L'opposant interne d'Éric Ciotti serrait les dents. Présentée uniquement par son prénom, cette sympathisante s'appelait Claudine Le Barbier, ancienne maire de Belve. Elle a été la suppléante de Basile Fagnier, candidat battu aux dernières législatives avant d'être recruté par Ciotti comme directeur de la fédération. Oh, les républicains, ils ont été gaulés, la main dans le pot de confiture. On fait témoigner un simple électeur, une simple électrice lambda. Et puis en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'elle est rien de lambda du tout. Elle est membre du parti. Classique, classique shit. Classique shit. Tous les partis font ça. Chut. Au micro, Claudine Le Barbier s'est également fait applaudir après avoir assuré que sur les territoires ruraux oubliés, le seul qu'on entend, c'est Zemmour. Ça, c'est vrai. Ça fait mal à LR. Hein. Les territoires ruraux, l'alliance des villes et des champs, la droite des villes et la droite des champs, ça a toujours été la grande capacité de la droite républicaine à rassembler tous ces électeurs-là. Aurélien Pradier, que vous voyez là faire un gros bisou à Eric Ciotti, Aurélien Pradier qui se déteste. Hein, mais bon, là c'était pour la photo, il fallait faire semblant. Michel Barnier qui était là. La pantomime s'est poursuivie lors d'une table ronde consacrée aux attentes des Français. Présenté comme agriculteur, sa profession, Baptiste Gatouya était également aux dernières législatives le candidat de François Baroin dans la 3e circonscription de l'Aube. Putain, les républicains essayaient de faire semblant quand même. De même que Claire Gourlaouen, enseignante et candidate dans le Finistère, battue elle aussi. Bon allez, on passera. Promesse d'introspection, de tabou levé, de refondation, l'exercice fleure finalement l'autosatisfaction destinée surtout aux militants. C'est sympa, cool, on a rempli une salle, commente une députée après coup, on va voir ce qui se passe après. Le concepteur du projet, Geoffroy Didier, a promis un tour de France de réunions thématiques, des masterclass et une réforme et une plateforme en ligne déjà active et destinée à recevoir les contributions des sympathisants. La suite, la route est longue, estime le député du Lot Aurélien Pradier, qui, comme beaucoup d'autres, a filé avant un débat à la sauce CNews sur le wokisme entre Éric Nolot et Mathieu Boccoté. Il y a, poursuit Pradier, un chemin pour notre famille politique, mais la condition, c'est qu'elle fasse un vrai Big Bang. Le rassemblement de ce samedi avait plutôt l'odeur de pétard mouillé. Bon, pour Libération, tout ça c'est bien gentil, mais à part s'auto-falucher, ils n'ont pas dit grand-chose de nouveau, ils se sont convaincus qu'ils ont raison d'avoir raison, on est les plus bons, on est les plus forts, on est les meilleurs, et on lance un grand travail de refondation et de restructuration du parti sur des idées nouvelles en vue de 2027. Bon, ok, dont acte, pas grand-chose à se mettre sous la dent sur le fond. Rien de neuf. Bah écoute, ça va pas grand. Honnêtement, entre Simone Veil, Chirac et Bellamy Ciotti, on n'est plus du tout sur la même droite. Facile de comprendre ce qui ne marche plus, avortement, racisme. Oui, mais regarde, encore une fois. Faut bien comprendre un truc, c'est que le RPR ou l'UMP des années 90 ou 2000 n'a absolument rien à voir avec le républicain d'aujourd'hui. De la même manière que le PS d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le PS de ces années-là. C'est la même chose. C'est que le paysage politique français a été structuré historiquement autour de deux grands partis, l'un de droite, l'un de gauche, le PS à gauche et le RPR, l'UMP et les Républicains à droite. Des grands partis, et ça veut dire quoi être un grand parti? Un grand parti, ça veut dire brasser très large en termes d'identité politique. Je vous rappelle que le Parti Socialiste est un parti au sein duquel il y a eu pendant 20 ans Jean-Luc Mélenchon et Manuel Valls. Ils étaient dans le même parti. Ils avaient des idées politiques relativement différentes. Ils n'étaient pas de la même famille au sein du Parti Socialiste, mais le Parti Socialiste était suffisamment gros et grand et large pour embrasser tout le monde. À droite, c'est pareil. L'UMP, le RPR avant lui et les Républicains ont historiquement été des partis qui brassaient très très large. T'avais effectivement des gens qui étaient plus proches d'un souverainisme de droite et d'autres gens qui étaient plus proches d'un libéralisme du centre. Et ils étaient pourtant dans le même parti. Ils arrivaient à se mettre d'accord. On parlait de rassembler de Gérard Collomb à Gérard Filoche à l'époque. Oui, voilà, Gérard Collomb, Gérard Filoche. Très bon exemple. À force d'embrasser tout le monde. Ah bah, à force d'embrasser tout le monde, on gagne des élections, hein. Parce que c'était aussi ça, le PS et le RPR et l'UMP. C'était des machines à gagner les élections. Bachelot et Boutin. Bachelot et Boutin, très bon exemple. Le RPR, il y avait Bachelot et Boutin. Tu vois, tu peux pas faire plus opposé, hein, sur les thématiques sociétales. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, on est moins prêt à faire des compromis, chacun sur sa ligne. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire que le PS et les Républicains ont évolué, ne sont plus du tout à l'image de ce qu'ils étaient à l'époque. Ils ont perdu beaucoup de militants, beaucoup d'adhérents, beaucoup d'élan politique. Et ils se retrouvent de fait à être recroquevillés sur des électorats plus petits. Les Républicains se posent toujours la question de son identité politique, de son positionnement politique ou de son espace politique. Le PS, de son côté, bah, vous avez bien vu ce qui est en train de se passer au PS. Olivier Faure a accepté de rentrer dans la NUPES, participe à la NUPES avec Jean-Luc Mélenchon, ce qui lui est très fortement reproché par la moitié de son parti, quand même, pas rien. Et par Bernard Cazeneuve de l'extérieur qui en vient à créer un nouveau mouvement politique pour rassembler les déçus du macronisme de gauche. Aujourd'hui, c'est Renaissance qui brasse large, du centre-gauche au centre-droit. Ouais, c'est ça. En même temps, c'est le parti au pouvoir. Donc oui, aujourd'hui, Renaissance brasse large. Mais grosso merdo, si tu reprends la tripolarisation du paysage politique issu des élections législatives de l'année dernière, tu as un grand bloc de gauche qui s'appelle la NUPES, dans lequel c'est en fait assez large. Dans la NUPES, tu as du mélenchoniste pur jus, et tu as du Olivier Faure, en passant par un milliard de nuances d'écologistes et de communistes. Tu as ensuite le pôle de la majorité présidentielle autour d'Emmanuel Macron, dans lequel tu as du Barbara Pompili, tu as du Sacha Houlié, tu as des gens divers et variés, et ça va brasser jusqu'à du Gérald Darmanin ou Bruno Le Maire. Bon, bah ça brasse large. Et de la même manière que tu as un bloc d'extrême droite autour du Rassemblement National qui va brasser du facho à l'ancienne de l'OAS et nostalgique de l'Algérie française, tout comme tout comme du libéral des centres-villes issu des Républicains. Voilà. Clément Beaune et Gérald Darmanin dans le même gouvernement, quand même, c'est pas facile de croire qu'ils sont compatibles pourtant. Ouais, mais bien sûr. Mais vous croyez que c'était quoi quand Jean-Luc Mélenchon était dans le même gouvernement que Dominique Strauss-Kahn? Attends, est-ce que Dominique Strauss-Kahn avait déjà quitté le gouvernement? Je crois que Dominique Strauss-Kahn avait déjà quitté le gouvernement à cause de l'affaire de la MNEF. Bah, c'était pareil, hein. Mélenchon, il était proche de Fabius. Ça dépend à quelle époque. Oula, 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 oula. En 2005, oui. 2004-2005, oui, ça clairement. Mais avant, non, et après, sûrement pas. Donc voilà. Donc voilà. Tac, tac, tac. Et j'ai un autre article, un article d'analyse du Monde sur les droites européennes qui sont sous la coupe de l'extrême droite. Parce qu'en fait, le phénomène qu'on est en train de connaître en France est un phénomène que l'on constate dans d'autres pays européens. Le fait que la droite classique, la droite historique, la droite républicaine, appelez ça comme vous voulez, soit sous la coupe ou sous la menace d'une extrême droite qui marque des points au point de parfois réussir à faire des coalitions comme en Italie par exemple, c'est un truc qu'on a dans d'autres pays européens. Donc Le Monde a proposé un article, pour essayer de regarder un peu de ce côté-là. Comment ça se passe ailleurs en Europe? Comment se démerdent les droites classiques face à cette montée de l'extrême droite partout en Europe? À travers l'Europe, la circulation des idées de l'extrême droite vers la sortie s'accompagne d'un nombre croissant d'accords de coalition ouvrant la voie vers le pouvoir. De l'Italie à la Suède, entre similarités et différences, revue des détails. Parce que la raison pour laquelle ça m'intéresse, c'est parce que moi, je fais partie de ceux qui s'interrogent, comme tout le monde, sur l'avenir de la droite républicaine en France. Est-ce que son avenir, il est du côté des coalitions avec Emmanuel Macron ou avec un centre libéral? Ou est-ce qu'il est du côté d'un accord de gouvernement avec Marine Le Pen à la Meloni à l'italienne? Donc ça m'intéresse de savoir comment ça se passe dans ces pays dans lesquels ils ont fini par trouver des accords. Alors, hop, 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 hop. Là, vous voyez le chef des démocrates suédois d'extrême droite qui est là. Le premier ministre conservateur qui est là. Et la présidente des chrétiens démocrates qui est là. Et le chef du parti libéral qui est là. Donc en Suède, vous avez une coalition entre l'extrême droite, les conservateurs, les sociaux-démocrates et les libéraux. C'est dur à imaginer, hein. Ce qui était naguère un tabou politique en Europe est en passe de devenir une banalité. Les accords entre des partis de droite et d'extrême droite pour former des gouvernements ou des majorités parlementaires se multiplient. 23 ans après le choc causé par l'entrée au gouvernement du FPÖ de Jörg Haider en Autriche, Giorgia Meloni, chef de Fratelli d'Italia, préside le gouvernement italien. Les démocrates de Suède sont au cœur du pouvoir et du programme de celui dirigé par Ulf Kristersson. Les démocrates de Suède, c'est les fachos, hein. Ceux qui ne le savent pas. C'est comme ça qu'ils s'appellent, mais c'est l'extrême droite suédoise. À Helsinki, les vrais Finlandais, c'est le nom du parti, viennent de trouver un accord avec le Parti du peuple suédois de Finlande et le mouvement des chrétiens démocrates pour composer la coalition la plus à droite de l'histoire du pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Tandis qu'en Espagne, Vox imagine déjà être indispensable au Parti populaire pour gagner après les élections législatives du 23 juillet. Il va falloir regarder très précisément les élections législatives espagnoles. Ailleurs, y compris en France, sans accord formel, les idées de l'extrême droite sont reprises dans les programmes de droite de gouvernement. Au début du siècle, alors que perçaient en même temps le FPÖ, la Ligue du Nord en Italie et l'UDC en Suisse, le discours anti-islam et xénophobe de ces populismes. Attends, merde, j'ai perdu mon. Le discours anti-islam et xénophobe de ces populismes alpins avait creusé le fossé avec les droites. Depuis lors, le terrain sur lequel s'est progressivement bâti leur rapprochement est précisément le même, celui de l'immigration et du rejet de l'étranger. C'est intéressant ce paragraphe parce que ça nous rappelle qu'effectivement, confère ce que je vous disais tout à l'heure sur le chiracisme, 2002, 21 avril, Jean-Marie Le Pen au second tour, il y a un raidissement de la droite républicaine dans le rejet de l'extrême droite, dans le rejet de la xénophobie. C'était ça, le refus de l'extrémisme de Jacques Chirac, etc. On était pile poil dans ces années-là. L'immixtion de l'extrême droite électoralement au début des années 2000, a éloigné la droite classique de l'extrême droite. Il y a eu un effet de rejet. Ok? Sauf que, 20 ans plus tard, il n'y a plus d'effet de rejet. Et l'extrême droite continue sur les thèmes de lutte contre l'immigration, contre l'islam et xénophobe, sauf que maintenant la droite s'y convertit petit à petit. Vous voyez? Mais désormais, dans une mesure variable selon les pays, d'autres sujets rapprochent les droites de leurs extrêmes. Des éléments de la guerre culturelle ont fait leur entrée dans la rhétorique de certains dirigeants conservateurs. Les Polonais du PiS, le Fitch du Premier ministre hongrois Viktor Orban et Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni ne sont ainsi plus les seuls à dénoncer le wokisme et ses supposées traductions en matière d'égalité des droits et de défense des minorités. Ça aussi, c'est intéressant. Le wokisme qu'on a entendu vilipender au Cirque d'hiver à Paris pour les Républicains, c'est typiquement un nouveau sujet sur lequel droite et extrême droite se retrouvent, main dans la main. Au-delà d'un climato-scepticisme grossier, certains embrassent aussi une ligne populiste, fustigeant les effets de la transition énergétique sur le mode de vie et le pouvoir d'achat. La percée inattendue en mars du mouvement agriculteur-citoyen de Caroline van der Plas, devenu le premier parti aux Pays-Bas en faisant campagne contre le plan de réduction de l'azote dans l'agriculture, a frappé les esprits. Ça fait penser à, en France, la lutte contre les ZFE, la lutte contre la taxe carbone, évidemment, la lutte contre les éoliennes. Intéressant. Plus ou moins avancé, cette extrême droitisation de la droite traditionnelle touche la plupart des partis conservateurs européens et s'accompagne en parallèle de tentatives de normalisation, voire de dédiabolisation, de la part des partis radicaux qui mettent une sourdine à leurs critiques envers l'Union européenne, refoulent leur penchant pour la Russie et amendent leur programme économique. Et là, on est au cœur de la stratégie de Marine Le Pen depuis 10 ans. Les critiques radicales contre l'Union européenne, où il y a encore 10 ans, l'extrême droite t'expliquait qu'il faut absolument sortir de l'Union européenne, il faut sortir de l'euro. On les entend plus. Marine Le Pen, elle botte en touche, elle discute plus trop, etc. Ils refoulent leur penchant pour la Russie. Marine Le Pen, elle jure la vie de sa mère qu'elle a rien à voir avec Poutine, qu'elle a jamais été pro-Poutine, qu'elle a jamais été financée par Poutine. Lol, répond la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le sujet. Et elle amende son programme économique, là pareil, Marine Le Pen, qui a basé toute sa campagne de 2022, quasiment toute sa campagne de 2022, sur le pouvoir d'achat. Stratégie de dédiabolisation à fond. Cette hybridation ouvre la voie à un rapprochement entre les groupes partis populaires européens et conservateurs et réformistes européens au Parlement européen. Donc le PPE au Parlement européen, c'est l'équivalent des Républicains en France. C'est la droite. Classique, c'est les conservateurs. Il n'y a pas plus classe, ouais, y a pas plus facile à dire, c'est les conservateurs, le PPE. Les conservateurs et réformistes européens, eux par contre, c'est la droite nationaliste et eurosceptique du Parlement européen. C'est l'extrême droite qui se dédiabolise. Et ils sont en passe d'éventuellement peut-être faire un rapprochement au Parlement européen, en vue de la nouvelle législature qui s'ouvrira après les élections de juin 2024. Une évolution de nature à transformer en profondeur les équilibres traditionnels européens. Alors, Suède-Danemark, un arc précurseur. Donc là, ensuite, on va avoir la liste de différentes situations en Finlande, en Italie, etc., en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, au Royaume-Uni, en Espagne. Alors, on va regarder tout ça. On va essayer d'aller un peu vite quand même. Alors, en Suède, la bascule n'a pris que quelques années. À la veille de la présentation de l'accord gouvernemental entre les conservateurs, les libéraux, les chrétiens-démocrates et les démocrates de Suède, en octobre 2022, le directeur politique des sociodémocrates, Gustav Gellerbrandt, s'en étonne lui-même. En principe, nous avons réussi à imposer la politique migratoire des démocrates de Suède, constate-t-il aujourd'hui. Non, les SD, c'est les démocrates de Suède. Oui, non, pardon, c'est pas les sociodémocrates. Pardon, pardon, pardon. Oula. Justement, c'est l'extrême droite. Le SD, c'est l'extrême droite. Donc lui-même, il s'étonne de à quel point ça a été facile de faire basculer le gouvernement vers l'extrême droite sur la question migratoire. En ajoutant, c'est incroyable en fait. 4 ans et demi plus tôt, Ulf Kristersson, le chef des conservateurs, affirmait encore qu'il refusait de collaborer, converser, coopérer et gouverner avec les SD. Vous avez vu comment ça va vite, hein? Il y a 4 ans, il disait jamais, ils sont infréquentables, c'est des fachos. 4 ans plus tard, il signe un accord de gouvernement avec eux. Désormais, Ulf Kristersson n'hésite plus à dire que les SD avaient raison quand ils voulaient restreindre au maximum l'immigration. Aujourd'hui, les conservateurs et les chrétiens-démocrates suédois défendent même le principe d'un changement de paradigme en matière d'accueil des étrangers. Quand l'ancien Premier ministre conservateur Fredrik Reinfeldt demandait à ses concitoyens d'ouvrir leur cœur en août 2014, alors que nombre de demandeurs d'asile est arrivé dans le pays, c'était la crise migratoire suite au printemps arabe et la guerre en Syrie, alors que nombre de demandeurs d'asile arrivaient dans le pays, la droite conservatrice veut aujourd'hui, entre autres, forcer les fonctionnaires à dénoncer les sans-papiers, une idée soutenue par l'extrême droite. Putain, le backflip a été rapide, hein. Le backflip a été vraiment rapide. Longtemps pourtant, la droite conservatrice suédoise a considéré avec aversion le rapprochement précurseur opéré chez son voisin danois entre la droite et le Parti populaire danois, une formation nationaliste anti-immigration et eurosceptique qui a débuté en 2001 et transformé en profondeur la politique. Au fil des ans, la droite fait sien le programme d'EDF, du DF, pardon, et entre 2015 et 2019, donc c'est l'extrême droite, hein, danoise, la ministre libérale de l'immigration, Inger Storchberg, va plus loin que ce que l'extrême droite exige, allant même jusqu'à séparer illégalement les couples de jeunes demandeurs d'asile. Les sociodémocrates, revenus à la tête du gouvernement en 2019, après avoir promis de mener une politique migratoire aussi dure que celle de la droite et l'extrême droite, qui rêvaient d'externaliser l'asile, font adopter en 2021 une loi en ce sens. Putain. Ça a pris moins d'un mandat. Ouais, c'est ouf, hein. Merci Kim pour ton prime. Merci beaucoup. Non, c'est impressionnant. Alors en Finlande, une coalition otage de l'extrême droite. Alors en Finlande, en phase avec les exigences de l'extrême droite, les vrais Finlandais, c'est le nom du parti, le dirigeant conservateur de la nouvelle coalition, Petteri Orpo, a annoncé une politique économique d'austérité revenant sur certains des acquis de l'État-providence. Il a aussi concédé aux vrais Finlandais une politique de réduction drastique de l'asile dans le pays. En revanche, les leaders d'extrême droite ne sont pas parvenus pour l'heure à remettre en cause les ambitions climatiques du pays qui visent la neutralité carbone d'ici 2035. Maigre compensation. En Italie, Giorgia Meloni, on va en parler. En Italie, l'ascension vers le pouvoir de Giorgia Meloni et son parti Fratelli d'Italia, héritier du post-fascisme, est passée par un changement de discours sensible avant même la campagne des législatives de 2022. Les conséquences de la pandémie et de l'agression russe contre l'Ukraine ont coupé les ailes au discours populiste de la période précédente, caractérisé entre autres par un euroscepticisme à outrance et des inclinaisons pro-russes. Giorgia Meloni en a claquement de doigts, elle a changé de discours sur deux sujets pourtant majeurs, le tropisme pro-russe, oublié, comme Marine Le Pen, et l'euroscepticisme, là pareil, l'Italie, elle a arrêté d'être eurosceptique, parce que je rappelle quand même quand le coronavirus est arrivé en Europe, c'était en Italie, et que tous les pays européens se sont mobilisés en solidarité avec les Italiens. Donc c'est compliqué d'être eurosceptique quand toute l'Europe te vient en aide, quoi. Voilà. Et ben mine de rien, c'est probablement ça. C'est probablement paradoxalement la guerre en Ukraine et le Covid qui a permis à Giorgia Meloni, du coup, de changer de discours, de changer de braquet et de gagner des électeurs, et donc d'arriver au pouvoir. Investie dans ses fonctions en octobre 2022 à la tête d'une coalition de droite avec les populistes de la Ligue et Forza Italia de Silvio Berlusconi, la présidente du Conseil, qui fustigeait quelques années plus tôt la technocratie bruxelloise, a pris soin dès son arrivée au pouvoir de démontrer sa volonté de se conformer aux règles européennes. En même temps, avec la quantité de pognon que l'Italie a touché du plan de relance, là aussi. Compliqué d'être eurosceptique. Hein. Les quelques 200 milliards d'euros destinés à l'Italie par le plan de relance européen ont rendu caduques, au moins temporairement, les discours eurosceptiques classiques. Contrairement à ses alliés de la droite italienne compromis avec Moscou, Giorgia Meloni a par ailleurs pris un positionnement vif et sans détour en faveur de l'Ukraine, devenant même la garante de l'alignement atlantique de l'Italie. Ces évolutions rapprochent ainsi la présidente du Conseil de la droite classique et banalise ses idées, sans pour autant qu'elle abandonne le cœur de son identité politique, le national-conservatisme. Ce rapprochement se manifeste notamment au niveau européen. Depuis son arrivée au pouvoir, Giorgia Meloni, dont le parti est à la tête du groupe ECR au Parlement de Strasbourg, ce que je vous disais, l'extrême droite au Parlement européen, a multiplié les contacts avec Manfred Weber, le chef du PPE. Ce dernier a manifesté son soutien aux positions de Rome sur le dossier migratoire, principal levier de la politique européenne du gouvernement italien. Les démonstrations répétées de proximité de M. Weber avec la présidente du Conseil favorisent la construction par Giorgia Meloni, issue d'une famille politique d'abord marginalisée puis ultra-minoritaire et désormais dominante, d'une influence accrue sur l'ensemble de la droite au-delà du cadre italien. Et ça, c'est très intéressant de noter qu'effectivement, Giorgia Meloni et Manfred Weber sont peut-être les précurseurs d'une alliance entre la droite et l'extrême droite au Parlement européen, comme on le disait dans un paragraphe plus haut. Ça aussi, ce sera à regarder de très très près à l'issue des élections européennes au Parlement européen en 2024. En Belgique, une porosité risquée pour la droite. Crédité de 25% des voix, l'extrême droite flamande incarnée par le parti Vlaams Belang est annoncée comme le gagnant des élections générales prévues en Belgique en 2024. Pour faire mentir ce pronostic, la droite nationaliste et conservatrice emmenée par Bart De Wever, le président de l'Alliance néo-flamande, a depuis longtemps intégré une partie de ses thèmes mais refuse une éventuelle coalition avec le VB et son jeune président Tom Van Grieken. Sauf s'il abandonnait sa merde, a dit récemment M. De Wever, allusion au lien du parti avec le courant de l'ultra-droite identitaire. Ok. Dans ce contexte, M. De Wever poursuit son discours très dur sur la migration, mais reprend d'autres thèmes dont la lutte contre le wokisme. Il a récemment publié un pamphlet le décrivant comme un mouvement qui criminalise la société occidentale et glorifie tout ce qui peut lui porter préjudice. Dans ce livre, véritable outil de combat culturel, le maire d'Anvers s'en prend à un féminisme qui combat la masculinité en soi, à la négation de l'identité sexuelle, au sentimentalisme qui pousserait à considérer tout migrant comme un réfugié. Bon, donc en Belgique, visiblement, il s'est encore tendu entre les conservateurs et l'extrême droite, mais les conservateurs ont dit qu'ils étaient prêts à faire alliance avec l'extrême droite s'ils se dédiabolisaient un peu. D'accord. Aux Pays-Bas, Une influence ancienne. Ça se prononce Flambélang et Bart de Wever, si jamais tu veux faire plaisir aux auditeurs belges. Pardon, je fais des gros bisous aux Belges. Mouah. Désolé. Merci NG pour ton Prime, merci beaucoup pour ton soutien. Aux Pays-Bas, comment ça se passe? L'extrême droite a prospéré aux Pays-Bas depuis l'assassinat en 2002 du dirigeant populiste et anti-immigration Pim Fortuyn. D'abord assumé par Geert Wilders et son Parti pour la Liberté, son héritage est aujourd'hui partagé avec Thierry Baudet, dont le Forum pour la démocratie est passé du souverainisme au libertarisme en soutien à la Russie, à l'antisémitisme et au complotisme. Une nouvelle formation, JA21, réputée plus modérée, est apparue en 2021. Au total, l'extrême droite dispose de 28 sièges sur 150 à la Chambre des députés. Ouais, c'est pas beaucoup. La droite, partagée entre libéraux et chrétiens-démocrates, connaît une situation paradoxale. Le fractionnement de l'extrême droite l'a aidé à résister à la pression autour des thèmes de l'immigration, de l'Europe et de l'appel à une gestion plus autoritaire, mais il l'a aussi affaibli en permettant à des électeurs aux convictions extrémistes plus ou moins affirmées de se rapprocher d'un des trois partis. Oui, d'accord, je comprends. Ok. Libéraux et chrétiens-démocrates avaient tenté, entre 2010 et 2012, une alliance éphémère avec M. Wilders. Alors qu'ils ont durci leur politique migratoire, ils n'ont pas eu recours à l'expérience, ils n'ont pas eu à renouveler l'expérience grâce au système de coalition. Mais la politologue Mathis, mais le politologue, pardon, Mathis Roujine met en garde. Ce ne sont pas les électeurs qui deviennent plus radicaux, mais la politique elle-même, en raison de la polarisation créée par l'extrême droite dans la réaction qu'elle entraîne de la part des formations du centre. Merci, docteur Piotr, pour ton resub. En Allemagne, le cordon sanitaire en question, tu m'étonnes. Cordon sanitaire en Allemagne, disons que c'est symbolique pour l'Europe. Les chrétiens démocrates allemands de la CDU excluent tout rapprochement avec le parti d'extrême droite AfD. Tant que je serai présidente de la CDU, il n'y aura pas la moindre coopération avec ce parti à la fois xénophobe et antisémite, a assuré Friedrich Merz le 4 juin sur la chaîne ZDF. Pour les conservateurs, la montée de l'AfD dans les intentions de vote, on parle de 18 à 20%, représente pourtant un vrai problème. Eux-mêmes ne tireront pas profit de l'érosion des formations membres de la coalition d'Olaf Scholz, SPD, Vert, FPD, dans les sondages. Donc la CDU, qui a été éjectée du pouvoir suite au départ de Merkel et à la victoire d'Olaf Scholz, ne bénéficie pas des remontées dans les sondages face à l'AFD. Et ça les emmerde. La situation est particulièrement tendue dans les Länder de l'Est, où l'AFD devance largement la CDU. Ouais, ils font 10 points de plus, quoi. Plusieurs responsables chrétiens-démocrates n'hésitent pas à piocher dans le programme de l'extrême droite, réclamant notamment une réduction des allocations sociales aux demandeurs d'asile. Cette stratégie, qui est aussi celle du chef de la CSU bavaroise, Markus Söder, ne fait toutefois pas l'unanimité à la CDU. 2 ans après le départ d'Angela Merkel, beaucoup de responsables du parti restent fidèles à la ligne pragmatique défendue par l'ancienne chancelière et refusent de s'emparer des thématiques identitaires, sur le wokisme ou les questions de genre, estimant que leur camp prendrait alors le risque de perdre au centre ce qu'il n'est pas sûr de gagner en braconnant sur les terres de l'AFD. Je rappelle que Angela Merkel, chancelière allemande au pouvoir, a fait le move le plus gauchisant de l'histoire des conservateurs européens. En 2015, au moment de la crise, 2014-2015, au moment de la crise des réfugiés, l'Allemagne a été le parti d'Europe qui a le plus accueilli de réfugiés syriens sur son territoire. Ça a vraiment été un move assez spectaculaire de la part de Merkel. Et c'est par fidélité à ce pragmatisme de l'exercice du pouvoir que, visiblement, un certain nombre de responsables de la CDU ne veulent pas tomber dans le populisme gras. Voilà. Le pays d'Europe. Ah, j'ai dit le parti, pardon. Si de telles divergences ont toujours existé, la forte poussée de l'extrême droite dans les sondages crée toutefois des pressions particulières sur la CDU. Ok, bon, la CDU résiste bien en Allemagne. Mais l'AFD mène une pression électorale qui commence à faire réfléchir certaines personnes minoritaires encore à la CDU. En Autriche, ça devrait en inspirer certains. Alors, ça devrait en inspirer certains, ce move de Angela Merkel, oui, sauf que la CDU a perdu le pouvoir après. Donc il y a aussi des responsables de la CDU qui estiment que c'est à cause de cette mansuétude envers les immigrés, les réfugiés en l'occurrence, que la CDU a perdu le pouvoir. Et que les gauchistes sociaux-démocrates d'Olaf Scholz ont récupéré le pouvoir. En Autriche, la ligne rouge des positions pro-russes. Ah, oui, en Autriche, oui. Attendez, faut que je boive un verre. Le Parti de la Liberté, donc le FPO, génère des réactions de rejet au sein du parti conservateur OVP pour son opposition aux sanctions européennes envers la Russie. L'OVP fut pourtant un des premiers à rompre le cordon sanitaire avec l'extrême droite en formant une coalition avec la FPÖ en 1998 et gouverne toujours avec lui dans trois régions autrichiennes. Si les deux partis sont très proches sur les questions migratoires, les divisions sur les lignes étrangères sont plus fortes. Le FPÖ, actuellement dirigé par un des proches de Moscou, caracole certes en tête dans les sondages en vue des élections législatives de 2024, mais il n'est pas certain de pouvoir former une coalition. Sur la scène européenne, il est aussi ostracisé que Fidesz et le RN. Ok. Donc le FPÖ pro-russe caracole en tête dans les sondages. Et cette position pro-russe crée des tensions avec le parti conservateur. Ok. La Hongrie, symbole de la droitisation de la droite. Tu m'étonnes. Le berceau des alliances entre la droite et l'extrême droite et du basculement toujours plus à droite des partis conservateurs. L'Europe centrale est aussi le symbole des limites de ce mouvement. En raison de ses positions ambiguës sur la Russie, le Fidesz hongrois de Viktor Orban est jugé infréquentable par beaucoup de forces de droite traditionnelles, même celles qui partagent une admiration pour la politique anti-migrant, pour sa politique anti-migrant. Là aussi, c'est intéressant de voir que le... Paradoxalement... J'en parle après. Je suis en train de réfléchir à un truc. Le premier ministre nationaliste en poste depuis 2010 incarne la droitisation des droites. Libéral au début de sa carrière, dans la dissidence anticommuniste, il a glissé vers le conservatisme dans les années 90, avant de rejoindre un nationalisme de plus en plus radical. En 2015, la crise des migrants et sa politique de restriction du droit d'asile l'ont rendu populaire au sein des droites européennes, alors qu'il est encore membre du PPE. Mais depuis qu'il a quitté en 2021 la grande formation de la droite conservatrice, il s'est même éloigné de ses alliés du parti Droit et Justice polonais en refusant de rompre avec Moscou malgré la guerre. En fait, ce que ça m'inspire, c'est que, paradoxalement, avec sa guerre en Ukraine, Poutine a réussi le tour de force de s'affaiblir au sein de la droite radicale européenne parce qu'il a perdu des alliés avec ses conneries. Qu'en tout cas, les pro-russes sont devenus infréquentables pour beaucoup de partis plus modérés partout en Russie. Même si un certain nombre de partis d'extrême droite n'hésitent pas à faire le grand écart... à faire des backflips pour justifier le fait que non, on n'est pas pro-russe. Mmh. Au Royaume-Uni, une vision qui s'impose sans élus. Au Royaume-Uni, aucun parti d'extrême droite n'a jusqu'à présent réussi à approcher du pouvoir, ça c'est vrai. Pour autant, sans députés ni assises locales, les idées d'extrême droite ont largement infusé la droite. Le Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, UKIP, a dirigé par Nigel Farage, anti-européen et anti-immigrant, a eu une influence considérable sur la politique nationale. Bah évidemment, le Brexit n'aurait probablement pas eu lieu sans cette formation fondée dans la foulée de la signature du traité de Maastricht en 92. C'est en partie par crainte de défection d'élus Tories en sa faveur que le Premier ministre conservateur de l'époque, David Cameron, avait promis la tenue d'un référendum sur le divorce avec l'UE. Bravo Cameron hein, pour ça. Fin 2019, le choix de M. Farage... de ne pas présenter de candidat face à Boris Johnson lors des élections a aussi aidé le dirigeant à remporter une majorité historique aux communes et à imposer son accord du Brexit. Concernant la politique migratoire, M. Farage a également réussi à imposer sa vision. Certes, le nombre de personnes entreprenant la traversée de la Manche pour demander l'asile a augmenté ces dernières années, passant d'environ 1900 en 2019 à 45 750 en 2022. Tu m'étonnes. Légèrement augmenté, oui. C'est cependant bien moindre que dans d'autres pays européens. Les gouvernements Johnson, Truss et désormais Sunak continuent de promouvoir l'une des politiques migratoires les plus dures d'Europe. Pour exploiter le thème de la culture war, le parti conservateur n'a en revanche besoin d'aucun aiguillon. Ces dernières années, les Tories alertent sur les supposées menaces à la liberté d'expression, notamment sur les campus. Ce sont surtout les questions de genre et la reconnaissance du droit des personnes transgenres qui sont en débat. Le gouvernement Sunak a ainsi pris la décision sans précédent, début 2023, de bloquer une loi votée par le Parlement écossais facilitant la reconnaissance du changement de genre. Mmh. Intéressant. En Espagne, une résistance fragile. Alors que le Parti Populaire, le PP de droite, a décidé samedi 17 juin de diriger plus d'une centaine de municipalités, et de gouverner la région de Valence en coalition avec l'extrême droite, continuera-t-il à se différencier du discours de Vox comme il l'a fait jusqu'alors ? Ça va devenir difficile maintenant qu'ils sont en coalition ensemble. Pour l'heure, l'influence des idées de l'extrême droite sur la droite traditionnelle espagnole est restée limitée. Ultranationaliste, Vox est né en 2013 d'une scission du Parti populaire, qualifié de droite molle ou lâche. Il a grandi sur le rejet provoqué par les mouvements indépendantistes basques et catalans dans la société espagnole. Peu à peu, Vox a ajouté d'autres ingrédients du populisme de droite à son programme. Il nie le changement climatique, comme il nie les violences machistes. Imprégné d'une culture de la virilité et nostalgique d'une image de la famille catholique traditionnelle, il se bat contre les lois de genre en élargissant les droits LGBT ou l'avortement. Et il mêle régulièrement des thèmes de l'immigration, et il mêle régulièrement les thèmes de l'immigration et de la délinquance afin de mobiliser un vote xénophobe. Aucun thème de cette guerre culturelle n'a été repris par le Parti populaire pour l'instant. Changera-t-il sa stratégie alors que les coalitions entre les deux partis se banalisent ? À Valence, le PP a déjà épousé l'une des principales préoccupations de Vox, affaiblir la défense de la langue valencienne. Ok. Morale de l'histoire. Les partis d'extrême droite européens n'ont pas changé sur les questions migratoires. Ils n'ont pas mis d'eau dans leur vin. Ils n'ont pas eu besoin de le faire. Ils sont toujours aussi xénophobes qu'au début des années 2000. En revanche, les partis de droite traditionnels, eux, sont de plus en plus xénophobes par rapport à avant, même si ça résiste dans certains pays. On l'a vu un peu en Espagne, on l'a vu un peu en Allemagne, etc. Ils adoptent de plus en plus le discours de dureté sur les politiques migratoires. Ok ? Deuxième truc, l'anti-wokisme est en train de devenir un nouvel élément d'union entre la droite et l'extrême droite qui facilite les rapprochements. Troisième élément, néanmoins, virgule, la question de la proximité avec la Russie de Poutine continue à rendre difficiles les alliances parfois. Voilà. Morale de l'histoire, en France, les Républicains sont effectivement sur une ligne de plus en plus proche sur les questions migratoires. L'anti-wokisme est effectivement en train de devenir une ligne de rencontre assez claire entre la droite et l'extrême droite. La russophilie de Marine Le Pen, est-ce que ça empêcherait les Républicains de faire alliance avec elle ? Non, parce que Marine Le Pen est en train de revenir en arrière sur ce sujet et que les Républicains, de façon, ils ont toujours défendu un espèce de gaullisme théorisé. Donc ouais. Les électeurs LR et RN sont trop différents pour une alliance. Justement, c'est pour ça que c'est intéressant de faire une alliance. Est-ce qu'il serait pas temps d'arrêter de comparer LFI et FN ? Ah, t'es le seul à le faire là. Bah, tu peux arrêter si tu veux. C'est pas moi qui vais t'empêcher. Mais quelle ligne économique dans une coalition Marine LR ? Ça n'a aucun sens. Travailler plus pour gagner plus ? Baisse des impôts ? Responsabilité de l'État ? Solidité sur le régalien ? Réduction des impôts ? Enfin, tu vois, il y a un moment, pas si difficile que ça, hein. Il y a de tout au LR. Il y a de l'atlantiste, du gaulliste et même un peu de russophile. Oui, en vrai, t'as raison, Thomas. Je suis assez d'accord. Ok, intéressant ce panégyrique écrit par Cécile Chambreau et Stéphanie Lebars. Pour le monde, panégyrique des alliances plus ou moins assumées entre droite et extrême droite partout en Europe. C'est en train de devenir l'une des identités politiques de ce début de 21e siècle et de troisième millénaire. On dit pas panégyrique, mais si. Discours à la louange de quelqu'un. Ça veut dire ça, panégyrique? Attends. Non. Discours à la louange de quelqu'un. Ah ouais! Ah bah je viens d'apprendre un mot. On a appris un nouveau mot aujourd'hui. Non, pour moi, panégyrique, ça voulait plus ou moins dire panorama. Alors que pas du tout. Absolument pas. D'accord. Panégyrique. D'ailleurs, on dit panégyrique et non pas panégyrique. Ah ouais, donc j'ai tout faux. Le streamer français a tout faux. Tout faux. Panégyrique, c'est un discours à la louange de quelqu'un. D'accord. Ok. Panorama qui n'a rien à voir avec carbonara. Sachez-le. Je vous le dis, hein, vous allez passer pour des cons. Ni Castorama, ni... Oui, non, Carbonara n'a rien à voir avec Castorama non plus. C'est vrai, t'as raison de le préciser. On en est où? Attends, j'ai un article sur le remaniement. Alors le remaniement, bon, va-t-il y avoir un remaniement? Première question, va-t-il y avoir une coalition avec les Républicains? Auquel cas, il y aura probablement un remaniement. Ça a du sens parce qu'il faudrait faire entrer des députés les Républicains au gouvernement pour sceller l'alliance. Va-t-il y avoir un remaniement? Bah, peut-être qu'Emmanuel Macron va considérer que la méthode Borne n'est pas la bonne, qu'Elisabeth Borne n'a pas réussi à remplir la mission qu'il lui avait pourtant confiée. À savoir, trouver des majorités de projet sur des réformes ambitieuses comme celle des retraites. Et en même temps, peut-on le lui reprocher à elle? Je sais pas. Ça manque de droite en France. Et bah, tu pourras regarder le replay du stream parce qu'on a commencé par la lecture d'un article sur où en est justement la droite. Hop. Donc question, est-ce que les LR va appeler à voter RN face à un candidat de la NUPES? Ça, par exemple, tu as raison, c'est une bonne indication. C'est une bonne indication à suivre. Y aura-t-il un appel à voter pour le Rassemblement national au second tour d'une élection législative si d'aventure un candidat RN se retrouvait face à un candidat NUPES? C'est un bon exemple. Tu me diras du côté de la Renaissance aussi, hein, c'est une question qui se pose. On a déjà compris des positions et qui ont déjà dit que à choisir entre la NUPES et le RN, ils préféraient le RN, hein. Est-ce qu'ils auront l'humour de dire pas une voix pour Marine Le Pen? Ah bah non, ils diront pas une voix pour pas une voix pour Jean-Luc Mélenchon. Appel à voter sans consigne, comme d'habitude. Oui, c'est la solution de facilité. Tu as raison, jusqu'à présent, le LR, il faisait ça. Hein. Après, il y a NUPES et NUPES. Ah oui, mais tu sais, tu auras remarqué quand même qu'on a tendance à ne pas beaucoup voir les nuances dans les camps d'en face. On voit toujours plus facilement les nuances dans le camp dont on se sent proche que dans le camp d'en face. Pour les Républicains, il n'y a pas NUPES et NUPES, hein. Tout ça, c'est des mélenchonistes. Comme dirait un électeur un peu basique, le PS et Mélenchon, c'est la même chose. Hein. Hollande-Mélenchon, même combat. Hein. Tout ça, c'est du bolcho-socialisme, socialo-communiste. Tout ça, c'est des rouges. C'est kiff-kiff, blanc-bonnet, bonnet blanc. Ils font semblant d'avoir des divergences alors qu'en fait, ils sont d'accord. Voilà. C'était, comment elle s'appelle Amélie de Montchalin, qui avait dit que la NUPES, c'était de l'extrême gauche limite anarchiste. Fin de citation. Voilà. Les anards ont dû aimer. Oh, ils ont dû adorer, ouais. Est-ce qu'il y a des anarchistes contre les élections à la NUPES? Bah, par définition, non, parce que c'est une alliance électorale, la NUPES. Donc tu... Ils doivent se faire chier, les anarchistes de la NUPES. Là, les discussions en ce moment sur liste unique ou pas, les anarchistes, écoutez, vous êtes gentils, nous on propose de pas voter, donc en fait, on va pas se faire chier à discuter pendant des plombes de savoir s'il faut faire une alliance électorale. Alors, oui, mais pas voter pour qui? C'est ça la bonne question. Alors donc, cet article sur le remaniement. Cet article sur le remaniement. Quelles sont les options d'Emmanuel Macron? Bon, qu'est-ce qui lui reste? C'est une question qu'on a déjà posée sur ce stream hein, plusieurs fois. Je soupçonne Libération d'avoir regardé mon stream en prenant des notes pour écrire cet article. Je rigole, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous. Fragilisé par la crise sociale, le chef de l'État veut relancer son second mandat et explore les pistes d'un changement de Premier ministre. S'il dispose de plusieurs options, l'absence de nouvelles donnes politiques et le peu de personnalité à sa disposition pourraient plaider pour un maintien d'Elisabeth Borne. Putain, la pauvre Elisabeth Borne, elle deviendrait le choix par défaut, quoi. Un ministre fan de rugby résume l'artifice des 100 jours, dégainé par Emmanuel Macron en avril après la crise du 49-3 sur la réforme des retraites. Il a fait une chandelle, il a envoyé le ballon de très haut et il a fait. Et il faut le récupérer avec un joli geste. Très jolie métaphore. Alors que la balle est censée atterrir le 14 juillet, l'écosystème se demande si le geste présidentiel ressemblera à un bon vieux remaniement. Les nerfs sont à vif. Jean-François Copé est aperçu dans le quartier de l'Élysée? Calmons-nous, c'était pour aller chez le coiffeur. Julien de Normandie déjeune dans les parages de l'Assemblée nationale. L'ancien ministre est pisté par l'émission Quotidien pour le cuisiner sur un éventuel retour. Emmanuel Macron consulte Nicolas Sarkozy le 6 juin, raconte l'espèce, puis Édouard Philippe lundi, révèle le Figaro. Une phase que le président peut étirer sur des semaines avant de trancher, maintenant ainsi ses proches au supplice. Oh le salaud. Frétillement, attente, lassitude, résume un conseiller. Le président a une double difficulté. Il a du mal à choisir les hommes et les femmes. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et en dépit d'une grande violence intérieure, il a beaucoup de mal à couper les têtes, décrypte un député Renaissance. Certains se demandent aussi si un remaniement n'aurait pas plus d'écho dans l'opinion au retour des vacances, ou s'il ne faut pas attendre les sénatoriales, fin septembre. Voire la fin de l'examen, possiblement houleux, du budget à l'automne. Les uns voient Elisabeth Borne sur le départ, les autres, plus nombreux ces derniers jours, l'imaginent rester tant que l'horizon politique est bouché. La fin d'Elisabeth Borne est dans le cerveau du président. Ce n'est pas la fin qui compte, mais dans le commencement. Mais le commencement. Il n'a pas l'idée de celui qui ouvre le chapitre suivant, croit savoir un proche d'Emmanuel Macron. Oui, je comprends bien. Je comprends bien. En fait, j'ai l'idée, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il dit la fin d'Elisabeth Borne, en fait, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est qui commence quelque chose derrière. Quand tu tournes une page, tu penses pas à la page que tu viens de tourner, tu penses à la page que tu viens d'ouvrir. Et au demeurant, l'opinion publique pensera à ça aussi. Donc oui. Après avoir testé un transfuge des Républicains, Édouard Philippe, et un élu local de droite, Jean Castex, une techno passée par les cabinets socialistes, Elisabeth Borne, pourquoi pas un macroniste historique? Depuis quelques semaines, c'est l'hypothèse qui court, ou que Macron a lui-même lancé, croit savoir un conseiller qui y voit une baudruche d'essai. Un ballon d'essai, ça s'appelle. Un ballon d'essai, dans le jargon journalistique, c'est une hypothèse qu'on lance auprès de quelques journalistes pour qu'ils l'écrivent dans leurs articles, pour voir les commentaires qui en ressortent de l'idée, pour voir tester un peu l'opinion. Qu'en pensent les gens? Le président met le nom de Julien dans l'air pour faire chier tout le monde. Julien de Normandie, hein, c'est un fidèle parmi les fidèles. Vous ne voulez pas de Julien de Normandie? Alors vous aurez X. Julien de Normandie, Richard Ferrand. À part le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collière, y a-t-il plus proche du chef de l'État que ces deux-là? Voilà un an, le premier a voulu retourner dans le privé. Recruté par une start-up qui conseille les boîtes pour réduire leur empreinte carbone, l'ancien ministre de l'Agriculture se dit ravi de sa nouvelle vie. Sans convaincre ses interlocuteurs. Évidemment que ça le démange, il en a envie. Si le président qui adore travailler avec son premier cercle le lui demande, Julien ira, mais il soupèse alors le bénéfice-risque. Rapporte un ami qui imagine le quadra en remplaçant d'Alexis Collère, qui, s'il quittait son poste, ou comme piste sérieuse à Matignon, à même de ressouder la majorité en rappelant le bon souvenir de 2017 et le début de l'aventure En Marche. Julien de Normandie à Matignon, c'est pas la première fois qu'on en parle de cette rumeur-là. Mais c'est vrai que Julien de Normandie, il a le double avantage pour Macron d'être un historique d'En Marche de 2016 et d'être adoré par Macron. Macron adore de Normandie, il aime beaucoup bosser avec lui, c'est un de ses chouchous, c'est le meilleur, il est trop bien, il est super. Idem pour Richard Ferrand, qui lui aussi est un très 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 proche d'Emmanuel Macron et un vieux de la vieille. Problème de Richard Ferrand, c'est qu'il a perdu l'élection quand même, hein. Législative. Il n'a pas réussi à se faire élire député alors qu'il présidait l'Assemblée. Oh la honte, pardon. Idem pour Richard Ferrand, premier apôtre macronien. Conciliabule stratégique à l'Élysée, dîner avec les amis macronistes ou avec des figures de droite et de gauche, bureau exécutif de Renaissance, l'ancien président de l'Assemblée nationale, s'il a créé sa société de conseil après sa défaite aux législatives, n'est pas parti bien loin. Ferrand a une culture du Parlement et les Républicains le respectent. Il tiendrait la boutique. Macron a la solution sous le nez mais il ne s'en sert pas. Vante un parlementaire LR. Avec un fidèle à Matignon, pas de risque de concurrence ou de friture sur la ligne. Mais au-delà des accointances personnelles, amènerait-il davantage de voix que Borne à l'Assemblée? Pas sûr. Comme le met en garde le streamer politique Jean Massier depuis plusieurs semaines. Souvent décrit comme un double de Macron sans le charisme, de Normandie n'a jamais été élu. Ferrand, lui, a été battu. Tenir ensemble les bouts de la majorité, Borne le fait déjà. Mais elle ne fera pas plus. Ils seront des hypothèses crédibles, temporise un député Renaissance. Bon. Bref, on a l'hypothèse d'un vieux de la vieille fidèle parmi les fidèles. Richard Ferrand ou Julien de Normandie. Ça a l'avantage de ne pas pouvoir concurrencer Macron pour 2027. Concurrencer Macron, vous voyez ce que je veux dire, quoi, c'est pas un Édouard Philippe. Et ça a l'avantage d'être un fidèle, donc de pouvoir bosser en bonne intelligence avec Macron. Même si Elisabeth Borne n'a pas de problème de bonne intelligence avec Macron, visiblement. En revanche, ça a l'inconvénient de ne pas pouvoir faire mieux qu'Elisabeth Borne. Pourquoi est-ce qu'un macroniste, parmi les macronistes, ferait mieux qu'Elisabeth Borne? Sous-entendu, dans la capacité à aller chercher des voix de droite. Doute. Autre hypothèse, un poids lourd de droite. Bah oui, pour aller chercher des députés LR. Un an que le gouvernement s'épuise sur chaque projet de loi à compter les voix une à une pour atteindre le seuil de la majorité. Et si, pour sécuriser ses positions dans l'hémicycle, la Macronie passait pour de bon l'arme à droite? Pour forcer le destin et les députés LR au contrat de gouvernement, certains poussent cette idée. Avec quel casting? Deux options pourraient se présenter. Soit promouvoir un ministre issu des Républicains, déjà passé sous pavillon Macron. Là, on a les noms de Gérald Darmanin et de Bruno Le Maire, qui ont surgi tôt. Puis celui de Sébastien Lecornu, lâché sans bienveillance par des ministres soucieux d'enfoncer un coin entre celui de la Défense et son ami de l'Intérieur. Lecornu et Darmanin sont proches. Mais moi j'ai aussi entendu parler de la rumeur Lecornu en disant qu'il avait l'avantage de la discrétion sans les casseroles de Darmanin. De quoi arrimer les LR qui manquent au bateau? Improbable. D'autant qu'une bronca d'une partie de la majorité serait à prévoir. Par principe, Darmanin ne lâche pas le morceau, mais celui qui mettrait un veto absolu à ce scénario, ce serait François Bayrou. Construire le centre en France, soutenir Macron, le président du Modem, n'a pas fait tout ça pour se retrouver avec Darmanin qu'il considère comme un clone de Sarkozy en moins bien. Il sera plus dur que l'aile gauche, prédit un ministre. Et oui, c'est ce que j'ai tweeté ce week-end. François Bayrou sera un des principaux cailloux dans la chaussure d'Emmanuel Macron si d'aventure Emmanuel Macron se disait que c'était une bonne idée de nommer Darmanin à Matignon. François Bayrou, historiquement, est radicalement opposé à une alliance entre le centre macroniste et la droite. C'est toute l'identité politique de François Bayrou qui transpire à travers ce positionnement-là. Bayrou, c'est le centre indépendant. Bayrou, c'est le refus de l'UMP. C'est le refus de la fusion entre le RPR et l'UDF. C'est le MoDem. Bayrou, c'est 30 députés qui le suivent et qui, a priori, sont susceptibles d'être d'accord avec lui là-dessus. Qui s'en fout de Bayrou? Toi, tu t'en fous de Bayrou, tu fais ce que tu veux, mais Bayrou, il a 30 députés. Donc il pèse pas rien, Bayrou. Donc, il ne faut pas sous-estimer la capacité, pas tant de l'aile gauche de la Macronie, dont on parle beaucoup, plus que ce qu'elle pèse, je pense, que de la capacité d'un certain nombre de centristes de la Macronie de ne pas apprécier du tout l'hypothèse d'un LR à Matignon. Quant à débaucher une pointure de LR, interrogé, le président du Sénat, Gérard Larcher, s'est amusé à repousser le projet du bout des lèvres. D'un aujourd'hui, je ne dirais pas oui. Gérard Larcher, Premier ministre, est-ce que ça a attiré tous les républicains? Ce serait difficile pour les républicains de s'opposer à un gouvernement Larcher. On va pas se mentir. Hein. Je comprends que Larcher refuse, ça a du sens. En même temps, faut reconnaître que s'il acceptait, ce serait un baiser de la mort terrible pour les Républicains. C'est qui? Gérard Larcher, c'est le président du Sénat, figure respectée et assez centrale du parti Les Républicains. François Baroin a lui envoyé ses proches démentir tout intérêt. Mais François Baroin, il a dit non, il a déjà dit non, François Baroin, il veut pas, il veut pas. Là encore, la manœuvre est sans garantie de réussite. Quel est le LR light qui ramène une majorité absolue sans faire fuir notre aile gauche? Demande le même ministre. Quel est le LR light qui ramènera une majorité absolue sans faire fuir notre aile gauche? Bon courage pour le trouver, le LR light. Et Véronique Louwagie? Bah, elle est pas light, elle est pas light du tout. Sur France Info, mercredi, le président de LR, Éric Ciotti, a lui-même balayé une piste relevant de la politique fiction. Ça voudrait dire que nous sommes dans une situation où nous avons la majorité ou que nos idées s'installent au gouvernement du pays. Nombre de députés Renaissance qui ne voient pas... qui se voit mal prôner depuis 6 ans le dépassement pour finir avec Monsieur Ciotti et Retailleau, ne saurait mieux dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Borloo, il n'a jamais été UMP, ni LR. Benoît Apparu, il a quitté la politique. Éric Woerth, il a déjà rejoint Renaissance, il n'est plus LR. Les LR Light sont chez Horizon maintenant. Bah ouais, non mais oui, c'est vrai. Les LR Light, ils sont chez Horizon, je suis d'accord avec toi. Ouais, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Donc, un poids lourd des Républicains, personne n'y croit. Et en plus, François Bayrou risque de faire un caca nerveux. Il est de bon ton chez les macronistes de rappeler. Alors, la dernière hypothèse, la surprise du chef. Est-ce qu'Emmanuel Macron ne sortirait pas de derrière les fagots une proposition hallucinante? Qui ferait halluciner tout le monde. Barnier, c'est une bonne idée, tiens, Michel Barnier. Il est de bon ton chez les macronistes de rappeler l'œil humide, ce fait d'armes de leur grand homme. La nomination surprise de Jean Castex à Matignon en juillet 2020. C'est vrai que c'était une surprise énorme. Énarque, mais maire. Techno, mais chaleureux. Oui, si, c'est vrai. De droite, mais apprécié des grands élus de gauche en Île-de-France, c'est vrai. Aimant partager une entrecôte avec le président, et pas ramenard pour deux sous avec ça. Le seul de ces trois premiers ministres avec qui Emmanuel Macron a entretenu un rapport chaleureux, selon un membre du gouvernement. Il pourrait chercher un nouveau Castex, un mouton à cinq pattes, conjecture un conseiller. Un très proche du chef de l'État se charge de définir le portrait robot. Un premier ministre de contraste avec le président. Un élu local, capable de tenir la Macronie et ses barons, de maîtriser le Parlement et, si possible, d'élargir un peu la majorité. Eh bah, bon courage avec ça, mes amis! Un élu local, capable de tenir la Macronie et ses barons, de maîtriser le Parlement et, si possible, d'élargir la majorité. Bref, la Macronie rêve d'une perle rare sortie du chapeau présidentiel, tout en se montrant incapable de citer le nom d'un moindre impétrant. Et il y a 3 ans, celui de Castex ne circulait certes pas pour Matignon, mais il faisait déjà figure de potentiel ministre de l'Intérieur depuis 2018 et la démission fracassante de Gérard Collomb. L'an dernier, l'hypothèse Valérie Bédague a fait long feu. La DG de Nexity aurait refusé. Oui, c'est vrai. Et la nomination inattendue de la présidente du Grand Reims, Catherine Vautrin, a été débranchée in extremis sous la pression des proches du président, notamment François Bayrou, mais aussi Richard Ferrand, etc., etc. Je ne crois pas au retour de Vautrin, assure un proche de l'ancienne ministre sarkozyste. Alors qui ? L'écosystème est à sec. La vérité, c'est que le président a surtout envie de se nommer lui-même Premier ministre, se marre un membre du gouvernement. Quand il y a un truc qui ne va pas, il le fait lui-même. Ultime précision, une capacité à se faire voler la vedette sans broncher par le chef de l'État et une absence d'ambition présidentielle reste un plus pour décrocher le job. Ah putain! Ouais, donc c'est vraiment un mouton à 18 pattes quoi qu'il faut trouver. Autre hypothèse, et si on gardait Elisabeth Borne? Et si Elisabeth Borne réussissait à tirer son épingle du jeu? Une fois n'est pas coutume, Emmanuel Macron a tenu en Conseil des ministres à féliciter Madame la Première ministre pour le vote de lundi à l'Assemblée nationale. Il n'en fallait pas plus pour que la cote du maintien d'Elisabeth Borne ne reparte à la hausse. Je rappelle que le vote de lundi à l'Assemblée nationale, c'était la loi de programmation militaire qui a effectivement fait l'objet d'une majorité à l'Assemblée nationale. Ce pourquoi Emmanuel Macron a félicité la Première ministre. Comme elle s'était effondrée il y a 2 semaines quand le président avait semblé la rencadrer pour le lien tracé entre Pétain et le Rassemblement national, fragilisée par le recours de l'article 49.3 sur la réforme des retraites, la chef du gouvernement encaisse et s'accroche. Lundi, son ton était plus énergique qu'à l'ordinaire pour répliquer à une 17e motion de censure en moins d'un an. À Matignon, ils avancent, ils remplissent leur agenda pour la rentrée. On ne sent pas une date butoir au 14 juillet. Ils n'attendent pas, amorphes, en train de préparer leur CV, observe un conseiller ministériel. Elle va rester. Le président ne peut pas griller toutes ses cartouches, analyse un proche d'Emmanuel Macron. La délicate séquence budgétaire de l'automne avec ses 10 recours probables au 49-3 fait pour faire avaler les lois de finances à l'Assemblée plaide en sa faveur. Ça va être massacre à la tronçonneuse, tremble un conseiller de l'exécutif. Est-ce que tu changes de Premier ministre au risque de le cramer dans la séquence budgétaire ou est-ce que tu gardes Borne pour l'user jusqu'au bout ? Un argument rationnel à défaut d'être glorieux. À la question qui aurait fait mieux, je ne vois pas de réponse, la défend un ministre et je suis d'accord. Je suis d'accord. Le problème d'Elisabeth Borne, c'est pas Elisabeth Borne. Le problème d'Elisabeth Borne, c'est la majorité à l'Assemblée nationale qui n'existe pas. Donc en vrai, je comprends l'argument. De dire, attends, changer de Premier ministre en septembre pour que le nouveau Premier ministre commence son gouvernement par une séquence budgétaire qui va être un massacre avec une dizaine de 49-3 d'affilée. Borne peut aussi compter sur les bonnes relations avec Jean-Paul Mattei et Laurent Marcangeli, les présidents des turbulents groupes alliés Modène et Horizon. Voilà, pourquoi ça s'affiche pas le raid ? Merci Mediapart pour ton raid. Merci Mediapart. On est en train de terminer un article de Libé sur les hypothèses pour le remaniement qui vient qui à Matignon. Merci Mediapart, des bisous, abonnez-vous à Mediapart. Borne peut aussi compter sur des bonnes relations entre Jean-Paul Mattei et Laurent Marcangeli, les présidents des turbulents groupes alliés Modem et Horizon. Je serai le président, je garderai Elisabeth Borne jusqu'en 2024, plaide un dirigeant d'Horizon. En la maintenant, Emmanuel Macron devrait choisir entre la laisser remanier son équipe, ce qu'elle a plusieurs fois demandé, en vain, ou la contraindre à caoter jusqu'à l'usure complète de son gouvernement actuel. On est déjà dans une ambiance de fin de règne, conclut un conseiller. Donc, les hypothèses pour Matignon en cas de remaniement au cours de l'été sont 1. Fidèle de la Macronie historique. 1 de Normandie, 1 Le Cornu, pas un Le Cornu, pardon. 1 de Normandie, 1 Ferrand. Problème, c'est pas avec ça que tu irais chercher des voix de droite. Autre hypothèse, aller chercher à mettre quelqu'un qui était à droite et qui a déjà rejoint Renaissance, donc un Darmanin ou un Le Maire ou un Le Cornu, c'est pas comme ça que tu vas réussir à aller chercher des voix de droite parce que les gens de droite ils les détestent, mais tu vas en plus te fâcher avec Bayrou. Troisième hypothèse, aller chercher, débaucher une figure à droite suffisamment consensuelle pour éviter le départ d'une partie de la gauche de la Macronie. et de Bayrou, qui voit d'un très très mauvais œil l'idée de terminer, de finir en eau de boudin son centre indépendant sous l'escarcelle de la droite, ce qu'il a toujours refusé de faire depuis 20 ans. Quatrième hypothèse, garder Elisabeth Borne, faute de mieux. Un premier ministre issu de la société civile. Le problème, c'est que non, tu peux pas faire un premier ministre issu de la société civile. Un premier ministre issu de la société civile, tu peux le faire en début de quinquennat quand tu bénéficies d'une majorité à l'Assemblée nationale d'une part et d'un élan de réforme. Là, dans une ambiance de fin de règne, un élu de la société civile n'a aucune chance de remplir le job qui consiste à créer une majorité à l'Assemblée nationale. Il n'y a aucune hypothèse avec Horizon. Mais Horizon, ils sont déjà dans la majorité. C'est pas là que tu vas retrouver quoi que ce soit. Si tu ne retrouves pas ta marge de manœuvre avec Horizon, Horizon, ils votent déjà les textes. Hein. Sortie Bayrou pour prendre les LR, c'est bien puisqu'ils ont plus de députés que lui. Mais enfin, si tu n'es toujours pas majoritaire, ça change rien. Hein. C'est quoi la société civile? Ça veut dire une personnalité qui n'est pas issue du sérail politique. Quelqu'un qui n'est ni ministre, ni député, ni élu. C'est ça la société civile. Voilà. Je sais pas, un chef d'entreprise, un dirigeant d'association, une personnalité. Genre Papendiaï, ouais, genre Papendiaï par exemple. Voilà. Papendiaï, un chercheur. Jean Massier, Premier ministre. Avec quelle majorité? Ça n'intéresse personne ce qu'il y a de différent sur la fin de la limitation du cumul des mandats, du nombre de mandats. Non, non, mais ça c'est non. Il s'est repris derrière en disant que c'était de la merde et donc voilà, non, ça n'a aucun intérêt. La petite phrase, c'est pas très intéressant. Et la dissolution? Est-ce qu'une dissolution réglerait quelques problèmes que ce soit? Si vous regardez, enfin, je veux dire, si la gauche gagne, oui. Ah, parce qu'elle est prête à gagner, la gauche, là? Ils deviendront minoritaires, mais ils le sont déjà. Beaucoup moins de députés Renaissance en tout cas. Ah bah ça, t'en sais rien. T'en sais rien. Ça dépend des triangulaires, ça dépend du taux de participation. Ah non, non, non. T'en sais rien. Hein. Ah non, non, non. Moi, je vois bien le scénario. Si Macron dissout, les Français revotent exactement de la même manière. Toujours une tripolarisation, personne n'a de majorité. Même bordel qu'avant. Voire même pire, il y a encore moins de majorité qu'avant. Le RN serait sûrement le grand gagnant. Oui, mais le grand gagnant, pas au point d'avoir une majorité absolue. Donc en fait, tu solutionnes pas le problème. Hein. Oui, c'est sûr qu'il y aurait. Enfin, c'est sûr, j'en sais rien. Oui, il y aurait probablement plus de députés Rassemblement National. Ouais, bah écoutez, on n'est pas dans les ronces, hein. On n'aura pas de majorité demain matin. Ça, c'est sûr. Du coup, il n'y a pas de solution. Bah non. Continuez. C'est ce que semble indiquer Éric Ciotti, si on en croit les déclarations de samedi dernier, hein. Continuer bon an, mal an comme ça. C'est-à-dire, le gouvernement n'a pas de majorité, mais ça, c'est son problème. S'il propose des réformes trop ambitieuses, trop macronistes, bah, il n'aura pas de majorité. Donc, soit il utilise le 49-3, mais c'est très impopulaire. Soit. Voilà, quoi. Et il trouvera des majorités au coup par coup. Voilà, quoi. Mais en 2027, on risque d'avoir le même problème. Ah, tout à fait. Ah oui, tout à fait, oui. Ah, en l'état actuel des choses, 2027, il risque d'y avoir le même problème, hein. C'est-à-dire un président de la République mal élu, qui n'a pas de majorité. Quel que soit son nom, son prénom, son équipe politique. Imaginez Marine Le Pen, présidente de la République, mais qui n'a pas de majorité. Imaginez, je sais pas moi, François Ruffin, président de la République, mais il n'a pas de majorité. Obligé de négocier avec le MoDem et Renaissance pour mener la moindre réforme. Ah, je peux vous dire que l'avenir en commun, vous allez vous le foutre au cul, hein. Ce sera pas appliqué, hein. C'est bien, non, au moins le Parlement aurait une utilité. Ah ça, j'en sais rien, ça, je connais pas la méthode de gouvernement de François Ruffin. Je sais pas si François Ruffin ira chercher des coalitions texte par texte, s'il fera des compromis, ou s'il utilisera le 49-3. Ce sera la dictature du prolétariat. Bah, sans majorité au Parlement, tu vas dictater que dalle. Pourquoi Ruffin? Bon, je sais pas, j'ai dit Ruffin comme j'aurais pu dire Jean-Luc, hein. Ou Cazeneuve, j'aurais pu dire Cazeneuve aussi, hein. Oh, je veux fâcher personne, hein. Soyons sérieux. Ah bah, tu peux voter Cazeneuve si tu veux être sérieux, hein, il n'y a pas de problème. T'as le droit, hein, y a pas de problème, tu peux le soutenir. Donc bon, bah voilà, tout ça ne sortira pas des ronces. Hop, on jette un coup d'œil à la prog cette semaine, chers amis. La revue d'actu politique, c'était ce soir. Demain, on se retrouve à 14h pour les QAG. Mercredi à 15h, on fait la FAQ politique. Jeudi, Baxit. Avant-dernière émission Baxit, merci pour votre participation au financement de Baxit. Merci pour vos dons. Merci, n'hésitez pas à participer. Il reste que 2 semaines pour participer à Baxit. Donc allez-y. Et vendredi, on verra si on fait un stream. Est-ce qu'il y aura dedans? On verra ça vendredi. Voilà pour le programme cette semaine. Suivez les réseaux sociaux. On va faire un raid. Qui qu'on va raid? Trivia qui jouait PUBG? TPK qui jouait à Street 6. Vous avez le droit? Vous voulez qu'on aille chez Vous avez le droit? Ouais, bah vas-y. On va chez Vous avez le droit, chaîne de vulgarisation juridique. Merci à toutes et à tous d'avoir été là, je vous fais des bisous. On se retrouve demain à 14h pour la séance des questions d'actualité au gouvernement. Merci pour vos subs et vos resubs, merci pour vos dons. Merci à tous d'avoir été là, non vraiment c'était cool. Et participez au financement de Baxit. Il reste plus que 2 semaines. Si vous n'avez pas encore participé au financement de Baxit, ne passez pas à côté. Appartenez-vous aussi au club. Allez, des bisous. Bonne soirée à tous. Ciao, bye.